Vous êtes sur RTL.
Très très heureux de retrouver Yves Calvi pour vous accompagner maintenant pendant 2h30. Bonjour Yves,
bonjour,
ravi de vous retrouver.
Bien. Vous savez, quand j'écoute Louis Baudin, je me demande si j'ai bien fait de revenir.
Oui. Certes. Le soleil arrive demain.
Bon, alors c'est parfait. En tout cas, le soleil était dans votre voix et dans celle de toute l'équipe des Petits Matins. Bonne journée à vous, nous sommes ravis de vous retrouver. C'est la rentrée pour nos Bleus aujourd'hui et le début d'une formidable aventure pour l'équipe de France de football. La préparation commence aujourd'hui même et nous allons tout vous expliquer sur cette période bien particulière afin de forger une grande équipe de France. Dès 7h15, Nicolas Georgerot nous dit tout sur l'organisation préparée par Didier Deschamps à Clairefontaine. Et nous serons aussi avec Robert Pires qui a connu ces instants si particuliers de l'intérieur. À 8h20, toujours le sport, la politique et surtout la pandémie. Les Japonais ont à une immense majorité rejeté l'organisation de leurs propres Jeux Olympiques censés commencer le 23 juillet. Pourquoi, comment, avec quelles craintes? Nous serons avec la spécialiste Valérie Niquet qui est elle-même sur place. Les JO de Tokyo peuvent-ils encore être annulés? Je lui poserai la question. Enfin, l'invité politique d'RTL ce matin est un cas bien particulier. Karima Delli est la seule candidate à avoir réussi l'Union de la Gauche dans les Hauts-de-France. La députée européenne verte répondra à Alba Ventura à partir de 7h40. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Je suis ravi de vous retrouver. Très bonne journée à tous sur RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, le nombre de fumeurs qui ne baisse plus en France, les autorités s'alarment.
Après 6 ans de baisse consécutive, c'est un coup d'arrêt dans la lutte contre le tabac. La consommation est même repartie à la hausse chez les Français dont les revenus sont les moins élevés. Il faudra désormais scanner un QR code pour se rendre au restaurant ou à la salle de sport. On vous détaille le mode d'emploi dans un instant. Et si le déconfinement nous donnait envie de faire des bébés, c'est en tout cas ce que semblent indiquer des chiffres récents. Et puis la fronde anti-JO s'étend au Japon ce matin. L'un des principaux partenaires de la compétition demande à son tour l'annulation des Jeux.
La politique, Olivier Bost.
Et on verra pourquoi le gouvernement en fait-il autant pour les jeunes.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Après 6 ans de baisse ininterrompue, en raison notamment d'une politique sanitaire particulièrement agressive, le nombre de fumeurs en France est resté stable l'an dernier. Un quart environ des adultes déclarent fumer quotidiennement. Chiffre de Santé publique France. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Le confinement, l'obligation de rester chez soi, l'ennui n'y sont sans doute pas pour rien.
Oui, le fait d'être enfermé, l'inquiétude pour ses proches, l'angoisse de perdre son travail, tous ces facteurs ont sans doute abouti à des comportements plus addictifs. Même si Santé publique France ne tranche pas vraiment cette question, l'agence sanitaire évoque plutôt un contexte de crise sociale qui a démarré bien avant, fin 2018, avec le mouvement des Gilets jaunes et qui a fortement touché les populations à faible revenu. Or, c'est dans ces catégories les plus défavorisées qu'on note une augmentation du tabagisme, 33% de fumeurs quotidiens contre 29% l'année d'avant. La cigarette, utilisée pour gérer le stress, pour surmonter les difficultés du quotidien, malgré un paquet aujourd'hui à 10 euros. Autre signe inquiétant relevé par Santé publique France, 30% seulement de fumeurs quotidiens ont essayé d'arrêter au moins une semaine en 2020. En 2019, ils étaient plus de 33%.
Merci Odile Pouget. Alors que la journée sans tabac aura lieu lundi, la Ligue contre le cancer dénonce une nouvelle fois ce matin l'omniprésence de la cigarette dans les films français. Elle y voit une manœuvre des lobbies qui contournerait ainsi la loi.
On y boit aussi beaucoup. RTL, 7h02, l'Europe adopte le principe du certificat sanitaire. Les 27 pays se sont mis d'accord hier.
Il permettra dès le 1er juillet de voyager partout dans l'Union à condition d'être soit vacciné, soit immunisé, soit d'avoir fait un test. En France, la prochaine étape du déconfinement, ce sera le 9 juin, dans 15 jours, avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire pour tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Autre nouveauté, ce QR code à scanner pour tous ceux qui souhaiteront se rendre au restaurant ou dans les salles de sport. Là aussi, dès le 9 juin, Sophie Jousselin.
Oui, à partir de cette date, cafés, restaurants, salles de sport ont l'obligation de mettre en place ce dispositif. Ils afficheront à l'entrée un QR code que vous scannerez à votre arrivée via l'application Tous Anti-Covid. Et si dans les jours qui suivent votre visite, une personne présente dans ce même lieu, le même jour et dans la même plage horaire que vous, se déclare positive au Covid, vous serez averti. par une notification orange. Vous serez alors incité à vous tester et à surveiller l'apparition de symptômes. Si la notification est rouge, il y a la suspicion de cluster dans l'établissement que vous avez fréquenté, c'est-à-dire plus de 3 personnes positives. Vous devrez alors vous isoler et vous faire tester. Se signaler dans ces établissements sera une obligation. Le professionnel ne pourra pas vous laisser entrer si vous ne le faites pas. Si vous n'avez pas de smartphone, vous devrez inscrire vos coordonnées dans un cahier de rappel.
Sophie Jousselin, les derniers chiffres confirment la baisse du nombre de patients dans les hôpitaux. 3450 désormais en réanimation. Par ailleurs, près de 10 millions de Français auront bientôt reçu leurs 2 doses. Hier, c'est la star du PSG, Kylian Mbappé, qui s'est fait vacciner. Tellement heureux qu'il a immortalisé l'instant sur les réseaux sociaux. Et puis, première étape aujourd'hui du bras de fer judiciaire entre l'Union européenne et AstraZeneca devant un tribunal belge. Bruxelles reproche au laboratoire anglo-suédois de ne pas avoir honoré les contrats de livraison. Passé à tabac pour s'être opposé au conducteur d'un camion qui venait décharger ses ordures de manière sauvage. Ça s'est passé avant-hier à Montbazin dans l'Hérault. Christian Puech, ce militant écologiste de 76 ans, s'en sort aujourd'hui avec une hémorragie, fracture de la mâchoire, du tibia. Il est toujours hospitalisé à Montpellier. Son entourage est sous le choc. Patrick Tégéraud.
Pour le maire de Montbazin, Josian Ribe, Christian Puech est un lanceur d'alerte qui a été lâchement agressé et on est passé à côté d'un drame.
Il a été laissé pour mort dans ce chemin-là. C'est quasiment chaque semaine qu'on nous déclare un endroit où un promeneur a constaté des branchages déposés, un chemin dans lequel il y a des gravats. Récemment, on a eu quasiment tout un appartement qui a été déposé sur le sentier de randonnée, des cassettes vidéo, des meubles, un peu de tout quoi.
Aurélien Dalloz est le premier adjoint chargé de la transition écologique.
On a 2 sites Natura 2000 sur la commune, donc on est clairement scandalisé par ce type de dépôt sauvage qui impacte fortement notre patrimoine naturel.
Christian Puech a 76 ans, il est hospitalisé pour de nombreux jours. Sa fille Aurélia est avocate.
Pour l'instant, son état est stable. Il a été opéré du tibia. Il doit être réopéré dans quelques jours pour des fractures multiples au visage. Je remuerai ciel et terre s'il faut pour retrouver cette personne et qui sera jugée comme il se doit.
Le ou les agresseurs ont volé la caméra de Christian Puech en le laissant inanimé. Malgré un tibia cassé, il a réussi à se traîner sur plus de 200 mètres jusqu'à son domicile, d'où son épouse a pu avertir les secours.
Patrick Tégéraud pour RTL. Un rassemblement aura lieu en fin d'après-midi devant l'hôtel de ville d'Ayange en Moselle en hommage à Stéphanie, cette jeune femme de 22 ans, tuée en pleine rue lundi par son conjoint. Elle avait déposé plainte contre lui en novembre dernier. Le procureur de la République de Metz a réfuté hier tout dysfonctionnement de la chaîne judiciaire.
Si le confinement fait chuter les naissances, le déconfinement semble redonner lui l'envie de faire des bébés. On en parle dans un instant sur RTL. Il est 7h06. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
Il est 7h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Y aura-t-il un baby-boom post-Covid? Les premiers chiffres semblent confirmer une légère tendance.
Oui, la région Occitanie enregistre en effet une hausse des naissances depuis le mois de mars. Plus 5%, il s'agit de bébés conçus l'an dernier au moment du premier déconfinement. Ah, l'embellie oui. Confirme également en région centre, en Bretagne, dans les Pays de Loire, entre 6 et 7% en moyenne. Un vent d'optimisme, pas forcément suffisant pour rattraper le retard. Sylvie Leminet dirige les études démographiques à l'INSEE.
Plutôt un rattrapage de naissances qui ne s'était pas concrétisé sur les premiers mois de l'année parce que les personnes ont attendu le sortir du confinement. C'est lié à l'incertitude. Les parents peuvent préférer reporter à un peu plus tard, à des jours meilleurs, leur projet de naissance. Par exemple, quand il y a des crises économiques importantes, on voit des naissances qui sont en baisse, mais dès lors que la situation s'améliore, eh bien, les projets de naissance repartent à la hausse ensuite. Donc, on observe vraisemblablement des choses de cet ordre-là.
Propos recueillis par Sébastien Rouxel. La politique à 3 semaines et demie des régionales, direction les Hauts-de-France ce matin. Seule région où la gauche est parvenue à faire l'union dès le premier tour. PS, Insoumis, Communistes, tous derrière l'eurodéputé écolo Karim Adeli. Unis certes, mais faible, loin derrière Xavier Bertrand, le sortant, et Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement National. Alors pas une minute à perdre pour grignoter des voix. Reportage sur le marché populaire de Wasem, Franck Hanson.
Dans les allées bruyantes du marché de Wasem, elle est toujours à l'aise, spontanée. Karim Adeli, entouré par ses militants socialistes et écolos, se démène pour convaincre.
C'est pour les élections régionales, pour le climat et pour l'emploi.
Malgré un déficit de notoriété par rapport à ses concurrents.
Ça va ?
Regardez, hop, c'est moi sur la photo là. Ah, voilà.
Bonjour mon Karima.
Ça va bien?
Ça vous parle, Karima Deli là?
Non, pas trop.
Il y a beaucoup de gens qui votent pas.
J'ai déjà vu de faire la télé. Ouais.
Déjà, ils ont de la gauche, des écologies, je sais pas trop ce que ça veut dire.
Ces forces de gauche qui ont réussi à s'allier, non sans douleur, ont pourtant du mal à décoller dans les sondages. Loin des scores du passé, mais pas de quoi entamer le moral de ses sympathisants.
La gauche a pu décevoir dans le Nord. Ça peut un petit peu nous plomber, mais on est toujours là. On sait les risques pour notre région.
Elle a le caractère.
Il faut un changement dans la région.
Karima, elle au moins, n'a pas de problème d'ego, pas comme certains élus nationaux, glisse la maire socialiste Martine Aubry.
Ce qu'on aimerait tous, c'est qu'au niveau national, là, les chefs qui se voient déjà, je ne sais où, à la présidentielle, arrêtent de la ramener, de se regarder le nombril. Ça nous aiderait, nous. Et je pense que Karima est une très bonne candidate, très courageuse.
L'eurodéputée Karima Deli veut croire en une éclaircie dans ce ciel du Nord, toujours changeant.
Voilà, avec à Oisem, avec un W comme Oisem.
Merci
et non
de
pas
le préciser.
Vazem, évidemment.
Et reportage, bien entendu, là aussi, signé Franck Hanson. Je rappelle que Karima Deli sera l'invité d'RTL et d'Alba Ventura à 7h40.
Prenons la direction du Japon pour terminer ce journal où chaque jour, les opposants à la tenue des Jeux Olympiques qui doivent démarrer le 23 juillet sont de plus en plus nombreux. Bonjour Philippe Dova.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Asie. Les Japonais, très majoritairement, ne veulent pas de cette compétition et les organisateurs ont de plus en plus de mal à rassurer, y compris leurs sponsors, leurs partenaires. L'un d'entre eux vient de jeter l'éponge.
Oui, ce matin, dans son éditorial, le prestigieux quotidien Asahi Shimbun, pourtant partenaire officiel des JO, a appelé le Premier ministre Suga à annuler les Jeux. Depuis sa publication, l'article fait le buzz sur les réseaux sociaux et au-delà des frontières est déjà à la une de The Guardian. Pourtant, le gouvernement continue à jouer la version japonaise de « Tout va très bien, Madame la Marquise », en duo avec John Coates, le vice-président du CIO, qui n'a pas hésité à déclarer que même si Tokyo se trouvait en état d'urgence en juillet, les Jeux auraient bien lieu. Une provocation qui a mis le feu aux poudres, et c'est le PDG de SoftBank, le géant japonais des télécoms, qui a dit tout haut ce que les Japonais excédés pensent tout bas. Masayoshi Son multiplie les tweets dans lesquels il dénonce le retard du pays en termes de vaccination, souligne que l'arrivée de dizaines de milliers d'étrangers cet été au Japon provoquerait un fléau sanitaire, et s'interroge sur la légitimité du CIO de décider du maintien des Jeux face aux risques qu'ils représentent pour la population. Enfin, un professeur de santé publique, expert auprès du gouvernement néo-zélandais, a qualifié d'absurde le maintien des Jeux.
Philippe Dova, le correspondant de RTL en Asie. Un mot de football, Galtier à Lille, fin de l'aventure, il fallait s'y attendre. Trois jours après le sacre du club, l'entraîneur a confirmé qu'il allait quitter le LOSC, estimant avoir fait son temps. Il confirme avoir été sollicité par cinq clubs, dont l'OL, Nice et Naples.
Et puis on vient d'apprendre un instant que la présidente du musée d'Orsay, Laurence Descartes, allait désormais diriger le musée du Louvre. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui au Croisé-la-Roche, dans le département du Nord.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 13, le 16, le 14, le 9, le 7 et le 4. La dernière minute, c'est le 16, Frick Duchesne.
On était très schnorr ce matin, vous avez remarqué.
Très schnorr.
Mais oui, avec plaisir. Il est 7h12, c'était le journal de Dominique Tenza. La politique tout de suite avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors expliquez-nous pourquoi le gouvernement se concentre à ce point sur la jeunesse.
Alors le vide d'un moment avec des youtubeurs, hein, la fameuse vidéo de McFly et Carlito à l'Élysée ne doit pas cacher l'offensive, la vraie, sans précédent, du gouvernement pour la jeunesse. La semaine dernière, le pass sport et les pass culture ont été lancés. 50 euros pour tous les jeunes pour une licence de sport et 300 euros pour des spectacles, des livres, des concerts. Et ce n'est pas fini. Avant la fin du mois prochain, Emmanuel Macron lancera la garantie jeune universelle pour tous les jeunes de 16 à 25 ans en galère. Contre leur engagement de se bouger, ils recevront 500 euros par mois et seront accompagnés pour les aider à trouver une formation ou un boulot. C'est l'anti-RSA jeune. Tout cela vient s'ajouter au repas à 1 euro pour les étudiants, au plan Un jeune, une solution, aux initiatives pour l'égalité des chances ou encore à l'aide massive à l'apprentissage. Et aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, va annoncer un nouveau demi-milliard d'euros pour mieux payer les profs. C'est pour l'éducation, c'est donc aussi pour les jeunes.
Bon, peut-on y voir un rapport avec les prochaines élections ?
Alors, pas immédiatement, parce que c'est d'abord parce que les jeunes ont souffert de ces un an de Covid. Dans ces années où vous tissez des liens pour la vie et où vous entrez dans la vie active, le confinement a été épouvantable. Les étudiants, notamment, ont été abandonnés à leur sort. Le gouvernement répare voir d'abord les effets de la crise sanitaire et ses erreurs. Il répond à des urgences pour éviter que la jeunesse s'effondre ou s'embrase. Son entourage réfute tout divorce entre les jeunes et ce président jeune qui ne fait pas toujours très jeune. Mais la réalité est là, Emmanuel Macron ne veut pas perdre le fil avec la jeunesse.
Vous nous suggérez qu'électoralement ce ne serait pas forcément payant, c'est ça ?
Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le vote des 18-25 ans n'a jamais fait une élection. D'abord parce qu'ils votent moins que tout le reste de la population. En revanche, ils peuvent très facilement pourrir l'ambiance. Il n'est pas nécessaire d'avoir les jeunes avec soi, mais il est impossible de les avoir contre soi. Une jeunesse sans avenir ou un mouvement de jeunesse qui démarre, ça touche tout le monde et personne ne sait ce que cela peut donner. À l'inverse, puisqu'ils sont l'avenir, leur optimisme peut être contagieux. Un ministre résume la situation. Soit on rentre dans une déprime générale, soit c'est la Covida. Alors la Covida, c'est une période joyeuse de libération, d'espoir en l'avenir. Si bien que ce ministre, pourtant assez strict sur l'autorité, a du mal à en vouloir aux jeunes qu'il voit faire la fête le week-end. Une jeunesse qui va mieux, et ça va déjà beaucoup mieux. C'est pour ça que le gouvernement en fait sa priorité absolue.
Ben, je vais vous dire, vive la Covid. Hein. Merci infiniment Olivier Bost. Je vous rappelle qu'à 7h40, Alba Ventura reçoit ce matin Karima Deli, eurodéputée, tête de liste de l'Union de la Gauche. Elle est la seule aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Dans un instant, nous partons du côté de Clairefontaine avec notre brigade de l'actualité. Nicolas Georgerot va tout nous expliquer sur la préparation qui démarre tout à fait officiellement pour nos Bleus dès aujourd'hui. Et puis nous serons aussi avec Robert Pires, ancien joueur de l'équipe de France qui a bien connu ses instants de préparation en compétition.
Calvi, RTL Matin.
À quel bonheur, c'est le début de l'aventure pour l'équipe de France. Les Bleus commencent leur préparation de l'Euro qui se déroule du 11 juin au 11 juillet, faut-il vous le rappeler. L'Allemagne, la Hongrie, le Portugal seront les adversaires des hommes de Deschamps au premier tour, on le rappelle là aussi. Avant cela, c'est donc une montée en puissance qui doit s'opérer. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes bien entendu l'un de nos spécialistes foot maison. Les Bleus devraient beaucoup voyager, où vont-ils se préparer? Leur camp de base, c'est bien Clairefontaine, hein?
Alors il va y avoir deux phases, Clairefontaine, oui, dans les Yvelines, pour la préparation précisément, le château, les installations, les infrastructures, ils y ont leurs habitudes et il en sera ainsi jusqu'au 14 juin, date de leur départ pour Munich où les Bleus affronteront l'Allemagne. Et ensuite, eh bien ils seront en itinérance, la Hongrie, Budapest durant 8 jours, puis il y a encore 7 destinations différentes possibles entre les 8e de finale et la finale à Londres, Séville, Rome, Saint-Pétersbourg ou bien encore Bucarest. Dans un cas de figure, si la France est deuxième de son groupe, eh bien elle repassera durant 4 jours par Clairefontaine avant de disputer son 8e de finale avec un principe général, une bulle sanitaire pour chaque sélection, contact physique très limité avec la presse par exemple, ce seront des visioconférences durant la compétition.
Alors la bulle sanitaire, on ne peut pas dire que nos joueurs nous y aient vraiment habitués. Les 26 joueurs arrivent aujourd'hui ?
Pas tous. 22 posent leurs valises aujourd'hui dans les Yvelines après 2-3 jours de repos accordés par l'encadrement suite à la fin des championnats. 4 sont encore avec leur club. Pogba qui dispute ce soir la finale de Ligue Europa avec Manchester United et les 3 Français de Chelsea, Kanté, Giroud et Zouma en finale de Ligue des Champions samedi face à Manchester City. Didier Deschamps peut avoir le sourire. Pour l'instant, aucun bobo majeur à déplorer chez ses joueurs. Karim Benzema va retrouver Clairefontaine aujourd'hui pour la première fois depuis octobre 2015. Un nouvel environnement en partie pour lui, car il n'a jamais connu par exemple les installations refaites en 2016.
Bref, beaucoup de bouleversements. Quel sera leur quotidien et leur programme ?
Eh bien, récupération, tests physiques et médicaux dans un premier temps, 2 matchs amicaux, France-Pays de Galles à Nice, France-Bulgarie au Stade de France. La préparation va être cruciale pour plusieurs raisons. Elle est courte, très courte, 20 jours seulement contre 24 en 2018 et 2016, 27 en 2014. Le préparateur physique a changé depuis le mondial en Russie. C'est Cyril Moine désormais et c'est sa première compétition internationale. Et puis enfin, les Bleus vont devoir être prêts dès le 15 juin contre l'Allemagne, alors qu'une montée en puissance avait pu être programmée il y a 3 ans en raison d'un premier tour abordable.
Merci beaucoup Nicolas. Vous êtes maintenant avec notre consultant Robert Pires.
Exactement, avec notre consultant M6 et RTL Robert Pires qui a connu 3 phases finales de compétition, la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000 et l'Euro 2004. Bonjour Robert.
Bonjour.
Le début de la préparation, le rassemblement, ça lance déjà la compétition ?
Oui, bien sûr. Le rassemblement est le point de départ justement de la compétition. Vous savez, à partir du moment où on met les pieds à Clairefontaine, déjà on sent l'atmosphère, on sent la petite pression qui monte parce que on sait pourquoi on est là. Et puis c'est surtout un honneur et une fierté justement d'être dans la liste finale du sélectionneur. Donc c'est vrai que ce moment-là, c'est un moment privilégié. Il faut le savourer. Et puis bon, bah après on sait que le plus important, c'est ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est un point de départ vraiment important pour le groupe.
C'est le moment où l'on se dit également, bah, je vais peut-être gagner ma place de titulaire, ou finalement chacun sait rapidement la place qui sera la sienne.
Bah, écoutez, normalement, on appelle ça la hiérarchie par le sélectionneur, et je pense que Didier Deschamps l'a déjà un petit peu établi, donc on sait à peu près quels joueurs vont évoluer. Maintenant, peut-être qu'il y aura des ajustements sur quelques postes précis, mais est-ce qu'il y aura une ou deux places à se disputer? Oui, peut-être, mais l'essentiel, c'est que tout le monde aille dans la même direction.
La vie de groupe, elle se met en place également à ce moment. C'est un équilibre à trouver, ça c'est important.
Oui, bien sûr, c'est un groupe qui se connaît parfaitement. Il y a beaucoup de champions du monde, donc le très haut niveau, ils savent ce que c'est. Et puis vous savez, généralement, ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se ressent quand on est dans le vestiaire ou quand on est dans les chambres les uns avec les autres. Et parce que c'est là où tout se passe, tout se prépare. Donc c'est vraiment important d'avoir une vraie cohésion de groupe.
Le premier match donc contre l'Allemagne, c'est un choc d'entrée. C'est grisant, c'est excitant. Est-ce que c'est aussi une étape cruciale? Parce que ça vient valider tout ce que l'on a fait en préparation et que ça valide finalement les choix de l'encadrement.
Quand on joue un Euro, le premier match, il est vraiment important parce qu'il vous lance dans le bain, il vous donne le tempo. Ce qui se passe avant, c'est aussi important, même si ce ne sont que des matchs amicaux, il faut les gagner quoi qu'il arrive parce que la confiance, on en a toujours besoin.
Merci Robert. À très vite.
À bientôt, avec plaisir.
Merci à tous les deux, Robert Pires, consultant football du groupe M6, et notre spécialiste maison, Nicolas Georgerot. Dans un instant, nous serons avec nos grosses têtes, Louis Bodin pour la météo et Anthony Martin pour sa pépite musicale.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h25, merci à vous tous qui écoutez RTL. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne. Quel est le programme ce
matin?
Alors,
on va commencer comme ça.
Ah. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet.
Oh, Pretty Woman, écrit et composé en 1964 par Roy Orbison, soit 26 ans avant le film. On le rappelle pour les plus jeunes, cette chanson n'a pas été écrite pour Julia Roberts. C'est Claudette, la femme de Roy Orbison, qui a inspiré ce morceau.
Mais
oui.
Claudette.
Oui, il était au travail, elle a passé une tête pour lui dire qu'elle partait faire du shopping. Roy Orbison et son co-auteur ont commencé à lancer des phrases au sujet de cette belle femme, cette Pretty Woman, l'imaginant en train de marcher dans la rue. Voilà comment est née la chanson. Ce titre avait déjà 15 ans lorsqu'en 1979, en pleine période disco, un chanteur français, un des pionniers du rock en France, un peu perdu à l'époque, s'est essayé au disco en enregistrant à Londres une version hallucinante du standard de Roy Orbison. Alors ce n'est pas Johnny, c'est pas Eddie, c'est Dick.
Dick
Rivers. Voilà, c'est Dick Rivers. C'est notre pépite du jour. Dick Rivers revisite Oh Pretty Woman en version disco.
Réussi cette histoire.
On passe que bah,
c'est stupéfiant, mais réussi. Oui, alors Louis Bodin est un puriste.
Non, c'est vrai, faut passer sans.
Mais vous n'aimez pas le disco.
C'est à la fois imparable et merveilleux. Version collector de la chanson Oh Pretty Woman par Dick Rivers, qui n'a pas souvent visité le genre disco.
Non.
Claude François n'était déjà plus là au moment de la sortie en 79. Je pense qu'il aurait dû et il aurait pu être jaloux.
Oui.
On trouve ce morceau sur l'album Deluxe de Dick Rivers.
Ah bah ce Bondy qui a réussi à nous surprendre. Vous aussi, merci. On se retrouve demain matin
demain, oui.
Pour une nouvelle pépite et à tout moment en podcast via l'appli RTL. Quel bonheur de pouvoir revenir dans le grand studio pour rire et applaudir nos grosses têtes. Inscrivez-vous sur public.rtl.fr et nous vous accueillerons dans le respect, bien entendu, des règles sanitaires. Vous y croiserez peut-être Laurent Baffi.
C'est la première fois que je rencontre Paul.
Ouais. C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Oui, je l'écoute régulièrement à la radio et j'ai trouvé un surnom. Je l'appelle Siri. Siri, quelle est la capitale du Mozambique?
Maputo.
Dis Siri, qui était le troisième président des États-Unis?
C'était Jefferson.
Formidable.
Encore, essayez voir.
Dis Siri, en quelle année est morte la reine Victoria?
En 1901, le 22 janvier.
15h30, 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier avec aujourd'hui Michel Faux, Stéphane Plaza, Caroline Diamant, Ariel Dombal, Pablo Mira et Bernard Mabille. Dis Louis, quel temps fait-il aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Et ben, c'est la dernière journée avec de la pluie. Vous vous rendez compte, vous rentrez et le beau temps va revenir.
Ben oui, il y a peut-être un lien.
Bon, en tout cas aujourd'hui, dans la moitié nord, ça sera encore très nuageux, avec quelques averses, des pluies assez fortes d'ailleurs en ce moment entre la Bourgogne et le nord-est, mais cet après-midi, ces pluies vont partir vers l'Allemagne, donc là aussi, on retrouvera un temps un peu plus hésitant, mais avec un peu moins d'averses, donc ça, entre la Bretagne, le centre, en allant vers le nord-est. Au nord de la Seine, cet après-midi, on devrait retrouver quelques éclaircies, et puis alors au sud d'une ligne à peu près, la Roche-sur-Yon, Besançon, là, on va conserver un temps plus sec et plus ensoleillé toute la journée, on va déjà noter l'amélioration. Il restera un peu de mistral et de tramontane près de la Méditerranée. En revanche, côté température, on n'en sera toujours pas ça. 1 degré en ce moment au Puy, 2 degrés à Aurillac, 3 degrés à Brive. Je rappelle qu'on arrive fin mai, hein, quand je le répète.
Oui,
14 à 17 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi, 18 à 21 dans le sud-ouest et 21 à 25 près de la Méditerranée, où là, ça commence à remonter un petit peu.
Merci beaucoup Louis Bonin, merci à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 26 mai. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous et attention, générique. Ce lion qui rugit, c'est bien sûr celui de la métro Goldwyn-Mayer, ça suffit. Un lion qui va sans doute se faire manger par Amazon. Le géant du net est prêt à mettre 9 milliards de dollars sur la table pour étoffer l'offre de son service de streaming Prime Video. Il faut dire que la MGM, Karine Auton, c'est un catalogue de rêves.
Alors, le catalogue MGM, vous ne pouvez que les reconnaître, c'est ça. James Bond, mais aussi Rocky ou d'autres grands classiques comme Chantons sous la pluie. Si les rumeurs se confirmaient, Amazon mettrait la main sur un vrai trésor de guerre. 4000 films et 17000 épisodes de séries en tout, comme ceux de La Servante écarlate. Les titans du streaming se livrent une vraie bataille d'abonnés en ce moment pour nous attirer, nous qui en voulons toujours plus, pour nous fidéliser. Eh bien, le nerf de la guerre, c'est le contenu. Les productions MGM, ça permettrait à Amazon Prime de maintenir le cap aux côtés de Netflix.
Ah, voilà. Elle
a été interrompue, Karine Auton.
Un peu brutalement, Karine Auton qui était donc aux États-Unis pour RTL.
On a compris en tout cas les effets des géants du net. Retour en France avec une nouvelle agression sur un élu. Cette fois-ci, c'est en Côte d'Or, Isabelle.
Oui, ça s'est passé dimanche en fin d'après-midi à Ouge, au sud de Dijon. Un jeune homme faisait du quad à grande vitesse le long d'un canal très fréquenté. Le maire, Jean-Claude Girard, lui a demandé de ralentir et le ton est monté. Le quadiste a promis de revenir avec du renfort et peu de temps après, effectivement, le maire a été passé à tabac par 7 à 8 personnes armées de barres de fer. Il a pris notamment un coup derrière la tête. Il témoigne sur RTL.
Je suis dès ce matin prêt à reprendre mes fonctions de maire en mairie et de manière très sereine. Physiquement, je suis très fatigué parce qu'avec un hématome, un traumatisme crânien, j'ai mal dormi. Je repars dans mes fonctions. Je dirais surtout pas comme si de rien n'était parce que c'est un événement que j'oublierai pas. Malheureusement, peut-être qu'on est comme les pompiers, les gendarmes, les médecins ou les infirmières avec qui on est très souvent sur le terrain. On peut être aussi ponctuellement la cible de réactions incompréhensibles et pas admissibles.
Jean-Claude Girard, maire d'Ouge en Côte d'Or, au micro RTL de Guillaume Chiez. La Seine polluée aux pesticides du côté de Rouen. Une coloration bleue est apparue sur une surface de 500 mètres carrés. C'est la fuite d'une cuve appartenant à une entreprise de transport qui est en cause. Le produit pesticide contiendrait des néonicotinoïdes, substance interdite en France depuis près de 3 ans. La métropole de Rouen a l'intention de porter plainte. Un sursis pour la fonderie MBF de Saint-Claude dans le Jura. Le tribunal de commerce de Dijon donne 3 semaines de plus aux éventuels repreneurs. Les 270 salariés sont mobilisés depuis près de 2 mois maintenant. Et la semaine dernière, ils menaçaient de faire sauter l'usine, faute de solution. Le délégué CGT, Naïl Yalcine, en appelle désormais à Emmanuel Macron.
Ce qu'on peut demander au chef de l'État, c'est croire à ses salariés, puisque ça tient à une volonté de l'État d'accompagner une reprise. Et bien évidemment, les constructeurs automobiles français qui font la pluie et le beau temps dans ce pays, c'est à eux aussi de s'engager sur de la relocalisation d'activités, de soutenir les entreprises telles que MBF et bien évidemment d'autres sous-traitants de la filière.
Propos recueillis par Raphaël Vantard. Le bras de fer entre AstraZeneca et l'Europe débute aujourd'hui sur le terrain judiciaire. Le laboratoire comparé devant un tribunal belge, il est accusé de ne pas avoir honoré ses commandes à l'Union européenne et d'avoir peut-être favorisé le Royaume-Uni. 180 millions de doses étaient prévues d'ici fin juin, ce sera finalement 70 millions. Le contrat risque fort de ne pas être renouvelé.
Il est 7h34, en pleine bataille avec Audrey Pulvar, Gérald Darmanin sort finalement le calumet de la paix.
Oui, depuis dimanche, le ton était monté entre le ministre et la candidate socialiste au régional. Elle avait jugé glaçant le rassemblement des policiers mercredi dernier devant l'Assemblée. Il avait annoncé qu'il portait plainte pour diffamation. Elle a riposté en brandissant une plainte pour dénonciation calomnieuse. Bref, après 48 heures de polémique, Gérald Darmanin a finalement proposé une rencontre qui a été acceptée. Un dénouement qui fait bondir le député insoumis Alexis Corbière.
Moi je dis à Mme Pulvar, il n'y a pas de main tendue à prendre. Il devrait même y avoir d'abord des excuses de la part de M. Darmanin pour expliquer comment, dans un moment, je ne sais pas, d'égarement, il a cru bon de pouvoir dire ça. Il fait le même coup. Vis-à-vis de la France insoumise depuis un moment. Islamo-gauchiste, complaisant vis-à-vis des assassins de policiers, c'est la même chose. L'utilisation de son poste au profit de manœuvres, d'intimidation, d'impressionner les gens, c'est ça qui est inquiétant.
Alexis Corbière au micro RTL de Jacques Seret. 3 mois après sa condamnation en appel pour viol, Georges Tron démissionne finalement de la mairie de Draveil. Cela faisait 25 ans qu'il gérait cette commune de l'Essonne. Il avait été réélu l'an dernier avec plus de 64% des voix. Le foot, à peine champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier annonce son intention de quitter Lille. Dans une interview au journal L'Équipe, il explique qu'il ne veut pas tomber dans une routine. C'est un entraîneur déjà très sollicité. Les clubs de Nice, Lyon ou Naples en Italie seraient sur les rangs. On termine avec un sourire, Yves, celui des visiteurs du zoo de Beauval qui a rouvert ses portes hier, bien sûr, avec un protocole sanitaire strict. Le masque est obligatoire dans tout le parc dès l'âge de 11 ans. Cela n'a pas découragé Jean-Noël qui a fait le déplacement de Dijon avec sa femme et ses enfants.
Les lumières, les couleurs, vraiment, c'est quelque chose de splendide.
Vous êtes venu avec vos enfants ?
Oui, tout à fait. On est venu en famille, entre donc 6 et 10 ans.
Ils devraient être à l'école ?
C'est vrai. On a un petit peu triché. Quand les maîtresses ont appris qu'on venait ici, elles ont rigolé, elles ont trouvé que c'était un beau projet qui pouvait être pédagogique également, exactement. Oui. Et là, c'est Capucine.
T'as des petites maisons en bois, puis le panda, là, il se repose sur une sorte de planche en bois. D'habitude, tu les vois sur des images, et le voir en vrai, bah, ça te fait tout bizarre. C'est trop bien, ouais.
Trop bien, les pandas au micro RTL de Christian Panvert.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, nous plongerons dans la jungle des entreprises de nettoyage post-mortem. Ces gens de l'ombre qui font le sale boulot.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure. Il est 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour mon cher Yves.
Vous nous parlez d'un conflit social qui a duré près de 2 ans et qui vient de se dénouer.
Oui, ce sont les femmes de ménage de l'un des plus grands hôtels de Paris qui étaient en grève. Un accord est conclu et derrière cette affaire se profile la situation très difficile des travailleurs à la tâche. Je vous raconte ça tout de suite.
Les explications de François Langlais dans l'Anglais Éco, c'est dans un instant sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'Anglais Éco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
L'un des plus longs conflits sociaux de ces dernières années a pris fin hier, François.
Oui, il s'agissait des femmes de ménage de l'hôtel Ibis de Paris 17e. Oui. C'est l'un des plus grands de cette chaîne qui appartient au groupe français Accor. Voilà 2 ans qu'elles étaient en grève. Alors, une grève, il est vrai, longuement interrompue par la crise sanitaire, tout comme l'activité des hôtels. Elles ont obtenu hier un accord salarial qui leur garantit plusieurs centaines d'euros d'augmentation par mois, à partir d'un salaire de départ qui était faible, avec une prime repas. Elles voulaient également être intégrées au groupe Accor comme salariées. Alors, revendication qui n'a pas été gagnante, elles restent donc salariées du sous-traitant d'Accor qui s'appelle STN, mais avec des qualifications améliorées. Et puis elles obtiennent surtout des cadences moins dures. Elles devront faire 3 chambres par heure contre 3,5 auparavant. C'est ce dernier point qui avait cristallisé le conflit à cause de la fatigue que ce rythme imposait.
Mais ça veut dire qu'on peut aujourd'hui être payé à la tâche ?
Oui, c'est tout à fait légal en effet. Et pas incompatible avec la mensualisation du salaire, c'est le code de travail qui le dit. Ce travail à la tâche, c'était la norme au début du XXe siècle. Dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services... norme qui a peu à peu été remplacée par l'essor du salariat. Autrement dit, une rémunération forfaitaire à l'heure, plus ou moins dépendante de la production individuelle.
Ça se passe où ?
Justement chez certains sous-traitants de grandes entreprises, secteur du nettoyage, de la désinfection, mais aussi et surtout, c'est la nouveauté, avec les plateformes, c'est-à-dire les prestataires de services sur Internet. Les livreurs à domicile, bien sûr. Ceux d'Amazon, ceux qu'on voit opérer dans nos centres-villes à vélo, qui portent les repas dans les habitations, ceux-là sont payés à la course, c'est-à-dire à la tâche. Oui. Les chauffeurs Uber, dans bon nombre de pays, ne sont pas non plus salariés. Ce sont des indépendants rémunérés en fonction des courses qu'ils effectuent. Et toujours sur Internet, de nouvelles plateformes se développent qui offrent des micro-salaires pour des micro-travaux.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Incroyable. Amazon a un site de ce genre qui s'appelle, curieusement, Mechanical Turk. Le Turc mécanique.
Tiens.
C'est d'ailleurs pas le seul, il y en a plusieurs. Oui. On y propose du travail pour le compte d'autres sites internet ou d'entreprises classiques. Par exemple, reformater des dizaines de milliers de photos, détourer des tombereaux d'images, harmoniser la présentation d'innombrables notices et textes pour quelques dixièmes de centimes d'euros l'unité. L'employeur, en fait, fait appel à une main-d'œuvre disponible à toute heure, parce que ça fonctionne dans le monde entier, avec le décalage horaire, et innombrable, ce qui lui permet d'avoir des délais très courts, sans avoir à se soucier de recruter ni de salariés. Quant aux employés, sont un peu les prolétaires modernes. Ils ont, avec ces plateformes de micro-tâches, 10, 20, 30, 50 employeurs différents.
Bon, c'est très surprenant. Faut-il croire, au vu de ces nouvelles pratiques, que le salariat va disparaître ?
Écoutez, non. En fait, ça n'est pas du tout la tendance de long terme. J'ai regardé les chiffres. Dans les années 70, on avait en France 20% des actifs qui étaient en travailleurs indépendants. Et ça n'est plus que 12% aujourd'hui. Parce que bon nombre de commerçants sont devenus salariés des supermarchés. Bon nombre d'agriculteurs ont disparu avec le regroupement des exploitations. Et cette proportion d'indépendants, elle baisse partout dans le monde, sauf dans un pays où ça monte, et ça monte fort, c'est le Royaume-Uni.
Ben oui.
Mais alors, cette tendance n'est vraie que sur les toutes dernières années, parce qu'on voit depuis peu le nombre de non-salariés, remonter un peu, justement à cause de l'essor des plateformes sur Internet et des activités de service.
Très intéressant. Merci beaucoup François Langlais. On se retrouve demain matin pour l'Angleco et à tout moment sur le site rtl.fr. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invitée ce matin.
Karima Delli, tête de liste Europe Écologie Les Verts dans les Hauts-de-France. Elle est la seule à avoir réussi l'union de la gauche en campagne.
A tout de suite avec votre invitée Karima Delli.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Karima Delli, députée européenne et tête de liste de l'Union de la Gauche aux élections régionales dans les Hauts-de-France.
Bonjour Karima Delli.
Bonjour.
Vous avez 42 ans. Alors, est-ce que vous êtes plutôt écolo-pragmatique façon Yannick Jadot qui soutient les policiers, ou vous êtes plutôt écolo du genre à penser que les enfants ne doivent plus rêver à l'avion et à considérer les punaises de lit comme des animaux résidents ?
Moi, je suis pour l'écolo sympa et l'écologie populaire, c'est-à-dire l'écologie qui vient montrer qu'il y a des solutions dans la vie quotidienne des gens. Se défrosser, bien manger, faire en sorte que notre vie préserve la planète et préserve également l'humain. Voilà.
Vous êtes plutôt pragmatique, on peut dire ça ?
Je suis assez pragmatique, je ne suis pas du tout idéologue ni sectaire. Je crois que l'écologie est la grande réponse du 21e siècle. Mais maintenant, il faut arrêter d'en parler, il faut en faire. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien, notamment en tant que présidente de la commission de transport au sein du Parlement européen, mais surtout tête de liste de cette union de la gauche et des écologistes.
Alors, vous avez réussi l'union régionale. Alors, c'est une toute autre chanson départementale, notamment dans un canton de Lille. C'est presque même la guerre, à tel point que Jean-Luc Mélenchon vous a traité de faux jeton. Il dit même dans un entretien au journal Le Monde, les écologistes ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre.
Oui, mais ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous savez, lui, c'est lui, moi, c'est moi.
Mais il vous fait une sacrée pute, quand même.
Et je suis concentrée sur les élections régionales. Hein. Voilà, il faut avancer.
Mais Karima Delli, c'est pas ravageur d'entendre des choses comme ça. Qui peut croire un instant après que vous allez être unie quand on entend ça ? Yannick Jadot a dit d'ailleurs qu'il était brutal dans ses propos.
Écoutez, moi, j'incarne l'union, vous savez. Je l'incarne. Je n'ai pas besoin d'en parler. Nous, on l'a faite. On l'a faite tout simplement parce que le rassemblement, c'est pas un exercice de style, hein. Le rassemblement, c'est parce qu'il y a urgence dans les Hauts-de-France. Il y a une urgence sociale. Quand je vois ma région où le taux de chômage est fort, un habitant sur six est dans la pauvreté, 31% des jeunes sont au chômage. Et parallèlement, on a aussi cette crise écologique. Regardez tous les sites des pollutions. On vit au rythme des pics de pollution. Moi, j'ai pas envie de ça. C'est la raison pour laquelle eh ben, on a un cap. Le cap, il est simple. Changer la vie des gens. On a une belle équipe et je suis très fière de mon équipe. Des communistes, des socialistes, des insoumis, des places publiques, tout ce qu'on veut. Mais on a aussi, surtout, une chose. On n'est pas là pour se servir de la région pour des ambitions personnelles, des ambitions nationales. On est là pour servir la région, justement, pour changer la vie des gens. Et vous voyez, c'est contrairement aux autres candidats, Bertrand, Chenu, Pietra, qui n'ont qu'une ambition. Hein. Alors, Bertrand, il a quand même aussi l'ambition des chasseurs.
Xavier Bertrand, c'est le président actuel de la région.
Ils ont tous... Justement, ils défendent leur intérêt privé. Ben moi, je suis la candidate de l'intérêt général. C'est ça qui m'intéresse.
Vous êtes confiante donc dans l'idée de gouverner avec le PS d'un côté et les Insoumis de l'autre. Je vous pose une question. Prenons le thème de la sécurité. Mm-hmm. À la manifestation des policiers, il y avait Yannick Jadot, il y avait aussi le socialiste Olivier Faure, le communiste Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon, lui, a dénoncé le caractère factieux de cette manifestation. Vous, Karima Deli, où vous situez-vous ?
Bah, tout d'abord, il faut avoir une pensée pour les proches et les familles, notamment de ces deux policiers ce matin. Moi, je comprends aussi que les Français soient inquiets sur la question de la sécurité. Mais je n'accepte pas qu'on fasse de l'insécurité un marché. Je n'accepte pas. Aujourd'hui, je refuse toute surenchère démagogique. Et là, je rappelle à Monsieur Darmanin, plutôt que d'aller manifester contre lui-même et jouer les kékés à côté des syndicats et aussi des caméras, il devrait faire son travail. Ça fait combien de temps que les policiers réclament des moyens ? Ça fait combien de temps, moi je le vois dans les Hauts-de-France, que les commissariats sont des taudis ? Ça fait combien de temps que réellement la police a besoin réellement qu'on l'écoute ? Vous voyez, Darmanin, c'est toujours ça aussi. C'est toujours dans la recherche du... Je vais le dire. Du coup d'État permanent et à la recherche de la petite phrase. Vous savez, le Front National, oh là là...
Mais vous auriez dit, comme Marine Le Pen, était glaçante.
Marine Le Pen est trop molle, machin. Moi, ce que je dis aujourd'hui, en tout cas, quand je vois ce que... Je comprends pas. Je trouve que le comportement de Darmanin est minable. Et vous avez dit, Audrey Poulevard, je crois que le ministre... de l'intérieur, lorsqu'il tente de baïonner, il faut le dire le mot, une adversaire politique en menaçant de l'attaquer en justice.
Ah, maintenant, vous avez vu qu'ils vont se voir, ils vont se rencontrer tous les deux.
Ben, je vous le dis dans les yeux, ce n'est pas le comportement d'un ministre de l'Intérieur. Et lorsqu'on parle de sécurité, moi, dans les Hauts-de-France, la sécurité, je la travaille surtout. La sécurité alimentaire. Je veux que les gens mangent bien. La sécurité au travail. Vous savez, dans les Hauts-de-France, il y a une usine qui s'appelle Maxamtam. C'est une usine qui produisait de l'ammoniac. Ils ont été licenciés. Ils sont restés 70 jours sur le site pour, justement, pas que ça dégénère, vous savez, de l'ammoniac qu'on peut avoir à la ZDF ou ce qui s'est passé au Liban. Et c'est la sécurité industrielle. Il était où, M. Darmanin, justement, pour protéger le site ? Même le préfet n'était pas là. Ce sont les salariés qui ont protégé le site. Ils étaient là 24 heures sur 24 pour la sécurité du site et pour la sécurité des riverains. Moi, je veux de la sécurité aussi à la santé, pour des offres de soins. Je veux de la sécurité pour que les gens aillent bien, voilà.
Évidemment, l'environnement, c'est un de vos sujets pour beaucoup de candidats désormais. Simplement, je n'ai pas très bien compris, Karima Deli, vous n'avez pas l'air de soutenir le projet du gouvernement d'un parc éolien au large de Dunkerque. Vous voulez qu'on consulte plus encore la population. Mais pourtant, vous êtes attaché, vous, à l'éolien ?
Alors moi, c'est clair et net. Je considère que la filière éolienne, il faut la porter et la soutenir. Maintenant, au niveau de Dunkerque, il y a peut-être une volonté de prendre du temps avec les populations. Parce que aujourd'hui, la véritable question, c'est quelle politique industrielle aussi pour l'éolien. Vous voyez, il ne faut pas dire de l'éolien pour l'éolien. En termes économiques, il faut aussi la filière.
C'est-à-dire, vous ne faites pas partie de ces écologistes qui pensent qu'on peut se passer du nucléaire.
Ah non, moi je dis, de toute manière, on va sortir du nucléaire. Mais moi, je ne suis pas comme Xavier Bertrand, qui est dans une logique clientéliste, qui dit, vous allez voir, je vais faire de l'EPR. Ben non, la région n'a pas de compétence sur l'énergie, vous voyez. Il faut être pragmatique. On va sortir du nucléaire.
Qu'est-ce que vous dites, vous ? Oui, mais...
Moi, je dis ce qu'il faut faire.
Pour l'instant, qu'il faut un mix entre le nucléaire et la transition qui nous amène vers...
De toute manière, il va falloir...
L'énergie propre.
Il ne faut pas investir... sur l'EPR, moi, je veux lui dire, moi je veux la sécurité des gens. Je suis allée à Fukushima. J'ai vu de mes yeux ce qu'était un accident nucléaire. des villes qui sont fantômes. Aujourd'hui, alors pourtant le Japon nous avait dit on est les meilleurs, ils sont les meilleurs dans la technologie, vous voyez. Aujourd'hui, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Je ne prends pas le risque de la sécurité des gens. Donc l'EPR, c'est pas possible. C'est un gouffre financier.
C'est une question de sécurité pour vous.
Pas seulement.
Parce que pour le moment, le nucléaire, c'est pas cher et ça émet moins de CO2 que le charbon et le gaz.
Dites-moi comment vous faites pour l'EPR de Flamanville. On est près de 19 milliards. Donc non, c'est un gouffre financier. Maintenant, la véritable question, c'est de se faire ce mix énergétique. Il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a les barrages hydroélectrique, etc. Maintenant, la véritable question, c'est de faire en sorte que les énergies renouvelables soient demain majoritaires. Il faut qu'on y travaille et on est très en retard par rapport à nos voisins.
Vous voulez des transports gratuits pour les jeunes ? Alors, gratuit, on se dit toujours ça, c'est un mot magique pour la gauche, hein, parce que rien n'est jamais gratuit.
Vous avez raison, c'est 29
qui
millions.
Qui va payer alors ?
C'est dans le budget, moi je l'ai projeté dans le budget de la région, c'est 29 millions d'euros. Et surtout, c'est que la volonté, c'est de pouvoir faire que les jeunes, oui, puissent découvrir leur région. Vous voyez, moi c'est ça mon ambition aussi, d'avoir...
Ils vont faire du tourisme ?
Non, pas seulement. Ils auront les transports gratuits pour aller à l'école, pour aller travailler, pour faire en sorte que leur vie se passe bien. On part plus de temps, notamment dans sa bagnole, que de prendre le train. Mais encore faut-il avoir des trains à l'heure, des trains confortables et des trains accessibles. Et bien ça, c'est mon objectif.
Karima Deli, la culture est une prérogative que la région partage avec les départements. Il y a une centaine de théâtres qui sont occupés en ce moment partout en France par les intermittents du spectacle. Il y en a dans la région des Hauts-de-France et notamment le théâtre Sébastopol à Lille. Ils réclament l'abandon de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage et une deuxième année blanche. Les intermittents ont sans doute été les plus aidés dans la crise. 11 milliards d'euros. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'indécent dans ces occupations ?
Pas du tout. La culture, je vous dis... C'est un besoin vital, surtout après des périodes comme on a vécu.
11 milliards d'euros.
Oui, mais non, mais vous pouvez dire 11 milliards d'euros, c'est le bien-être des gens. Vous pouvez me dire, on a mis 11 milliards d'euros, on a mis un peu plus dans l'automobile, dans l'aéronautique. Vous voyez, c'est pas une question aujourd'hui de la culture. Pour nous, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, pour moi, c'est un sens vital de la créativité, mais surtout de comprendre le monde dans lequel on vit, vous voyez. La crise sanitaire et la crise environnementale nous obligent à avoir justement ces besoins essentiels pour comprendre le monde, d'avoir les clés. Et donc il faut absolument dire aux artistes qu'on les soutient, aux techniciens, on les soutient, d'avoir des lieux où ce soit vraiment accessible. Je pense que là, c'est très important parce que je sais que vous allez peut-être me poser la question du pass culture. Eh ben, le pass culture, c'est une bonne idée en soi, sauf que moi, mon problème, c'est qu'on prend les jeunes. Alors, déjà, il faut avoir 18 ans, hein, pas plus, pas moins. Hein, donc, ça restera bien. En plus, on le fait en fin de mandature, mais moi, je trouve que les jeunes ne sont pas des consommateurs de la culture. On devrait faire en sorte que ce soit aussi...
auriez fait, vous ?
Ben, j'aurais encouragé surtout un vrai plan culture jeune. Moi, j'adorerais qu'on favorise l'insertion des jeunes artistes, des futurs professionnels, des grands projets où on a des jeunes qui puissent se projeter demain dans cet avenir culturel. Voilà. Et c'est pas à coup de youtubeurs ou à coup de je ne sais pas trop quoi qu'on essaie de ramener...
Ben, vous avez fait une campagne anti-boomer, hein, uniquement pour les jeunes, hein, Europe Écologie Libère, je vous le rappelle. Qui a été très critiquée d'ailleurs comme campagne.
Non, moi je n'ai pas fait de campagne anti-boomer. J'ai
Europe
dit,
Écologie Les Verts.
Moi, j'aime beaucoup Julien Bayou. Je lui ai dit, mais je considère que ça, ce n'est pas cela.
Une bonne idée ?
Non, c'est pas une bonne idée. Je crois que justement, tout le monde sauve la planète. Toutes les générations, on a besoin de tout le monde. Et c'est maintenant ou jamais.
Merci Karima Deli.
Merci à vous.
C'est maintenant ou jamais, vient de nous dire Karima Deli. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site RTL.fr. Nous allons surfer avec Cyprien Sini dans un tout petit instant sur RTL.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Très luxueux ce matin, vous surfez avec Joe Biden et Vladimir Poutine.
Et là, les amis, j'ai envie de vous dire, prévoyez du pop-corn. Et oui, car on l'a appris hier.
C'est le sommet que la Suisse rêve d'accueillir. Joe Biden et Vladimir Poutine le mois prochain, les signaux sont positifs.
Le mois prochain, Genève, dans un contexte international ultra tendu, rencontre entre deux hommes qui se détestent, que tout oppose.
La date du combat est déjà fixée.
Ce sera le 16 juin prochain.
Oui, le 16 juin, un combat qui s'annonce électrique, avec d'un côté...
Moi, Joseph Robinette Biden Jr., jure solennellement.
Joseph Robinette, surnommé aussi...
Le cheval de fer américain.
Le cheval de fer américain, face à Vladimir Poutine, dit...
Le grizzly de Sibérie.
Je vais te briser.
On est en pleine guerre froide, ça promet. Hein. Faut dire qu'il est président, depuis qu'il est président, le cheval de fer n'a jamais directement rencontré le grizzly. Mais les deux hommes sont déjà partis sur de bonnes bases. Hein. Biden à la télé américaine, il y a un mois, disant...
Le conflit Est-Ouest a bien lieu.
Disons donc...
Vous connaissez Vladimir Poutine, pensez-vous que c'est un tueur ?
Oui, je le pense. Alors quel prix doit-il payer ? Le prix qu'il paiera ? Vous le connaîtrez bientôt.
Ouais, vous le connaîtrez bien trop, il va payer très cher. C'est un tueur, réponse de Poutine.
C'est celui qui dit qu'il est.
Kems contre Kems, ambiance, ambiance.
On se retrouvera sur le ring, t'as compris ? On se finira ça entre nous.
Punching Joe, prêt au combat le 16 juin. Après, attention à l'adversaire quand même, hein. Costaud le Vlad.
Moi, je n'en reviens pas du cabaret du soviétique. Le soviétique a une force incroyable.
Ah bah, il a surtout toutes les qualités, Vladimir Poutine, a encore les vidéos qui circulent sur le net.
Vladimir Poutine est filmé en train de pêcher le brochet.
Vladimir est un crooner, le Fats Domino des Carpates.
Vladimir Poutine faire une plongée en mer Noire et remonter plusieurs amphores vieilles de plusieurs siècles.
On connaissait le judoka, le plongeur, le skieur, voilà le motard. Et c'est sur une Harley Davidson que Vladimir Poutine a rejoint lundi un meeting sur les bords de la mer Noire.
Oui, le match s'annonce assez violent pour Biden après ce choix de Genève n'est certainement pas anodin. En 1985, le président suisse y ouvrait un sommet américano-russe.
Soyez les bienvenus chez nous en Suisse. Ici à Genève, lieu de rencontre, ville de paix.
Et là, miracle, en ce mois de novembre 1985, on allait réconcilier l'irréconciliable.
En pleine guerre froide, Reagan, Gorbatchev, il y a 36 ans, le monde s'arrêtait à Genève. Le jeune Gorbatchev fait sensation. Il a 54 ans et il mettra fin 5 ans plus tard à l'URSS et permettra la chute du mur de Berlin.
Alors si la guerre froide s'est arrêtée à Genève, 36 ans plus tard, le combat Biden-Poutine aussi pourrait bien finir dans la joie et l'allégresse.
Cyprien, on vous retrouve ce soir avec Thomas Soto dans RTL Soir. Entre 18h et 20h, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de 8h avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la crise sanitaire qui booste les vocations d'infirmières.
L'image du métier a changé, il y a de plus en plus de jeunes candidats. Le tabac, ce n'est plus tabou, le nombre de fumeurs ne baisse plus pour la première fois depuis 6 ans. Et puis Nicolas Sarkozy joue les marionnettistes pour 2022, il aurait choisi son candidat, ou plutôt sa candidate.
Notre météo, Louis Baudin.
La France coupée en deux, avec dans la moitié sud le retour d'un temps sec et ensoleillé. Enfin, un peu de vent près de la Méditerranée. Dans la moitié nord, encore beaucoup de nuages, mais là aussi des pluies qui vont s'atténuer cet après-midi, à tel point qu'au nord de la Seine, on retrouvera aussi quelques éclaircies. Les températures, toujours pas de saison, 14 à 17 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 18 à 21 dans le sud-ouest et 21 à 25 quand même dans le quart sud-est.
Louis Baudin.
RTL Matin.
Trois vagues de Covid et des hôpitaux régulièrement au bord de l'asphyxie n'ont pas découragé les vocations. Bien au contraire, alors que Parcoursup s'apprête à rendre ses premières réponses demain, un constat s'impose. Les écoles d'infirmières ont la cote, 12% de demandes en plus en un an. C'est la formation la plus demandée et c'est encore plus vrai en Alsace. Reportage à Strasbourg de Yannick Collin.
En Alsace, les candidatures Parcoursup pour les écoles d'infirmiers ont augmenté de 13% par rapport à l'année dernière. Bien sûr, il y a la sécurité de l'emploi à la sortie, mais c'est surtout l'image des infirmiers qui a changé pour Fabienne Groff, la directrice de l'Institut de formation des soins infirmiers de l'hôpital de Strasbourg.
Ces infirmières qui tous les soirs étaient applaudies par le public, hein. Des images aussi qui ont été portées dans les médias de ces soignants qui sont des héros. Et je pense que ça participe quand même d'une image favorable du métier de l'infirmière, même si les conditions dans les hôpitaux sont difficiles.
Et c'est ce que craignent un peu les élèves infirmiers de troisième année à la sortie de leur cours, que les lycéens choisissent cette voie aujourd'hui sans se rendre compte vraiment de la difficulté du métier.
La plupart des personnes ne savent pas où y mettre les pieds. Ouais. Clairement, parce qu'on n'est jamais réellement conscient de ce qui se passe sur le terrain.
Je pense qu'il faut quand même un certain mental. On a vécu le Covid, je veux dire, on a vécu des stages qui étaient très durs. On ne peut pas sortir comme ça d'une filière lycée, où on se dit, ben, ça va être comme on voit à la télé.
Les responsables des écoles d'infirmiers qui espèrent tout de même que cette vision idéalisée du métier n'entraînera pas une hausse des abandons pendant l'information.
Yannick Collant, après plusieurs années de baisse, le nombre de fumeurs se stabilise en France. Il augmente même chez les plus modestes, d'après les chiffres publiés ce matin par Santé publique France. Hausse de 3 points par rapport à 2019. Le stress lié au confinement pourrait expliquer en partie ce phénomène. Et à 5 jours de la journée mondiale sans tabac, la Ligue contre le cancer lance un cri d'alarme. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Il y aurait trop de fumeurs et de fumée sur nos écrans.
Oui, gros plan sur un personnage en train de s'en griller une. Dialogue autour du tabac, zoom avant, arrière sur des cendriers ou des paquets de cigarettes. Sur 150 films visionnés depuis 2015, plus de 90% présentent au moins une de ces séquences. À l'écran, c'est 2 minutes 6 secondes en moyenne par film, ce qui équivaut à 6 spots publicitaires. La Ligue dénonce également des scénarios qui enfreignent la loi. Présence de plus en plus importante de fumeurs dans les bureaux, cafés, restaurants, une pratique illégale dans la vie réelle. Une omniprésence du tabac que 58% des jeunes considèrent comme une incitation à fumer. Phénomène d'autant plus préoccupant selon la Ligue que depuis le premier confinement, on sait que les trois quarts des 18-24 ans passent plus de temps devant des films ou des séries.
Odile Pouget.
8h04, Bruxelles et AstraZeneca face à face devant la justice.
Le bras de fer commence aujourd'hui. L'Union européenne demande des comptes aux laboratoires pour ses retards de livraison. Frédéric Bizard, économiste et spécialiste des questions de santé, invité ce matin de RTL.
Est-ce qu'AstraZeneca n'aurait pas vendu à la fois à l'Union européenne et au Royaume-Uni les mêmes doses? Et c'est ce que l'on suppose, hein. Donc c'est ce que dira cette procédure. Ensuite, il y a eu des surestimations de capacité de production, et ça, AstraZeneca n'est pas le seul. Donc AstraZeneca dit qu'il y a eu un problème de productivité dans son usine en Belgique. Il y a eu une usine qui a flambé en Inde, qui fabriquait l'adénovirus, qui est le vecteur viral utilisé pour ce vaccin-là. L'élément de fond, c'est véritablement, est-ce qu'AstraZeneca n'aurait pas, au moment du contrat, vendu des doses qui étaient déjà promises à un autre?
Le propos recueilli ce matin par Julien Cellier sur RTL. Aux États-Unis, une étude confirme la très grande efficacité des vaccins anti-Covid. Seuls 0,01% des personnes ayant reçu leurs deux doses ont été infectées. L'étude porte sur plus de 100 millions d'Américains. Aux États-Unis, la moitié de la population adulte est désormais entièrement vaccinée.
Dans un instant, bien vieillir chez soi plutôt qu'en EHPAD, c'est le défi des prochaines années. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Dans 10 ans, les seniors seront plus nombreux que les jeunes en France.
Oui, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. L'Institut Montaigne demande au pouvoir public de préparer le terrain. Tout le monde ne pourra pas aller en EHPAD. Comment mieux vivre chez soi et plus longtemps? C'est le défi qui nous attend. Il faut développer les aides à domicile, comme chez cette femme qu'a rencontré Gauthier Delon-Bugard. Reportage.
Nous voici chez Marie-Thérèse, 83 ans.
Bonjour Madame Dufour.
L'octogénaire vit seule dans son 3 pièces.
C'est mon salon, salle à manger.
Elle souffre d'une maladie neurodégénérative qui limite ses mouvements. Gwenaëlle Oliviero, l'ergothérapeute, a donc prévu un dispositif en cas de chute.
Madame Dufour a à son poignet son bracelet détecteur de chute.
C'est une sécurité.
On a enlevé quelques meubles dans la cuisine qui étaient gênants pour vous déplacer avec le déambulateur.
Et puis même dans l'appartement, on a calculé au centimètre près.
Et on a enlevé les tapis pour éviter qu'elles ne se prennent les pieds dedans.
Lit médicalisé, siège pivotant dans la baignoire, tout est pensé pour préserver l'autonomie de Marie-Thérèse.
On peut m'aider, mais il faut que je fasse toute seule.
Il y a 6 visites par jour.
Ça commence à partir de 8h30 au lever du lit.
Colombe Clarin et les infirmières assurent les soins.
Des soins basiques de douche, de toilette, des soins infirmiers, des injections.
Le kiné se charge de l'exercice physique.
Des mouvements de gymnastique que j'aurais jamais fait avant. Il ne faut pas se laisser aller.
Et les services sont nombreux, ménage, courses, livraison de repas, des jeunes en service civique viennent même jouer avec Marie-Thérèse.
Je suis bien entourée.
Essentiel pour cette grand-mère dont le fils vit à plus de 200 km.
J'ai visité des maisons de retraite, j'étais refroidie. Je me suis sentie vraiment mieux quand je me suis retrouvée chez moi. C'est la première chose que j'ai demandé, c'est de rester chez moi. Je suis dans mes meubles, je peux faire ce que je veux. C'est une sécurité, parce que j'ai mes repères.
Doris Rios, de la Fondation Aulagnier, coordonne le dispositif Diapason 92.
Ce sont des personnes qui devraient être en EHPAD, hein, qui sont en perte d'autonomie, pour lesquelles un maintien à domicile classique a déjà été tenté, puis on s'aperçoit que ça a ses limites. Donc on intervient pour renforcer ce maintien à domicile et proposer des aides un petit peu plus personnalisées.
Les EHPAD à domicile sont une alternative indispensable, nous dit Marie-Thérèse.
On a bien des petites mémées, des petits pépés.
Et profiter de ses vieux jours dans son salon avec sa télé.
J'aime bien ces chaînes parce qu'il y a toujours des documentaires.
Et ses visites quotidiennes.
Reportage signé Gauthier Delon-Bugard. La politique est d'abord Gérald Darmanin qui enterre l'âge de guerre. Il renonce finalement à porter plainte contre Audrey Pulvar, qui s'était insurgée contre la manifestation des policiers. Le ministre de l'Intérieur propose de rencontrer la candidate tête de liste en Île-de-France soutenue par le PS. Celle-ci a accepté. L'Île-de-France, qui devrait, selon les sondages, rester aux mains de Valérie Pécresse, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, a d'ailleurs les faveurs de son ex-patron qui la verrait bien porter les couleurs de la droite l'an prochain à la présidentielle. Ah oui. Marie Mollet.
Oui, depuis quelques semaines, le clan Sarkozy fredonne une petite musique que l'on ne connaissait pas. Et si c'était elle, Valérie, la candidate de la droite pour 2022 ? Et si c'était elle la seule à pouvoir se frayer un chemin jusqu'au second tour ? Ne la sous-estimez pas, prévient un proche de l'ancien président. Elle a beaucoup d'ambition. Elle a un couloir de nage, jure même un autre. Et tant pis si pour l'instant la présidente d'Île-de-France ne fait pas des miracles dans les sondages. Il y aura un moment Pécresse après les régionales, prédit un parlementaire. Alors, question, pourquoi les amis de Nicolas Sarkozy se sont-ils subitement amourachés de la candidate ? Ils veulent faire monter Pécresse juste pour plomber Xavier Bertrand, s'agace un député en vue. Xavier Bertrand, c'est vrai, ne fait toujours pas l'unanimité à droite. Et Nicolas Sarkozy, qui ne l'a jamais porté dans son cœur, ne fait rien pour l'aider, quitte à pousser Valérie Pécresse, alors que cette idylle ne sautait pas aux yeux il y a encore quelques mois.
Marie Mollet, élection présidentielle en Syrie ce mercredi. Sans surprise, Bachar el-Assad devrait partir pour un quatrième mandat face aux deux autres candidats qui ne sont là que pour faire de la figuration. Bachar el-Assad est au pouvoir depuis 21 ans. En football, Christophe Galtier tourne la page du LOSC. Il annonce son départ après avoir porté les Lillois en tête du championnat. L'entraîneur le plus convoité de France ne manque pas de propositions. Nice et l'OL notamment lui font les yeux doux.
L'histoire du jour.
On s'est passé le temps aux urgences de Bayonne. Dans la nuit de dimanche à lundi, la télévision de la salle d'attente a montré un film porno. Par erreur. 20 minutes débat débridé sur la chaîne Canal+, qui venait de diffuser en clair le multiplex de Ligue 1. Le multiplex s'est poursuivi d'une autre façon. Hein. La direction, évidemment, s'est confondue en excuses. Même si sur les vidéos prises par des patients, on voit que certains ont eu l'air de trouver le moment plutôt divertissant.
Écoutez, je m'en réjouis. C'était le journal de Jérôme Florin et on vous retrouve à 9h pour un point sur l'actualité.
Oui, c'est très complet. Bien
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Admis, refusés, en attente, les 931 000 candidats qui ont formulé des vœux sur la plateforme Parcoursup vont découvrir demain jeudi à 19h les réponses à leur demande d'affectation dans l'enseignement supérieur. Parmi les candidats, 635 000 lycéens, 182 000 étudiants en réorientation et 89 000 personnes qui souhaitent en fait reprendre des études. Avec notre brigade RTL, nous allons nous intéresser ce matin en particulier au choix d'études des élèves de terminale. Ils ont pu valider jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux parmi les 19 000 formations proposées sur la plateforme. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Il y a moins de lycéens sur Parcoursup cette année, mais ils ont validé davantage de vœux.
Oui, le baby-boom des années 2000-2001 est passé. Il y a moins d'élèves en terminale. Mais l'offre de formation est plus importante. 500 de plus que l'année dernière sur la plateforme. Le champ des possibles s'élargit encore et suscite de nouvelles candidatures. Par exemple, pour la première fois, les lycéens pouvaient postuler au concours post-bac des écoles nationales de vétérinaires. Elles ont reçu 20 000 candidatures. Sciences Po Paris, pour la première fois présent sur Parcoursup, a vu son nombre de candidats doubler. Des candidats plus mobiles, les trois quarts des lycéens sur la plateforme ont fait au moins une demande d'affectation en dehors de leur académie. C'est 5% de plus que l'année dernière.
Alors, quelles sont donc les filières les plus demandées ?
Les licences et les BTS. Près de 7 lycéens sur 10 ont fait au moins un vœu en licence. Les licences universitaires sont pour la plupart non sélectives. Cela permet de se garantir une place quelque part. Le choix est vaste. Plus d'une centaine d'intitulés différents. C'est la licence de droit qui est la plus demandée. Les BTS sont aussi donc très recherchés. Un lycéen sur deux a mis un BTS sur sa liste de vœux, une formation courte en 2 ans, mais sélective. Les terminales des bacs technologiques et professionnels ont davantage choisi des BTS particulièrement adaptés à leur poursuite d'études et il y a des quotas pour leur garantir des places. Là aussi, le choix est grand, plus de 110 intitulés différents de BTS, notamment en commerce et management.
Marie, combien seront-ils dès demain soir à obtenir une affectation ?
En général, un peu plus de la moitié reçoit au moins une réponse positive le premier jour. Au bout d'une semaine, l'année dernière, 63% avaient obtenu une affectation et au moment des épreuves du bac, bac, eh bien, on était à 85%. Il y a forcément toujours des déçus. Je vous parlais de Sciences Po Paris qui a vu son nombre de postulants doubler, mais ce n'est pas le cas, évidemment, de ses capacités d'accueil.
Merci infiniment, Marie Guerrier. 931 000 candidats qui donc ont formulé leurs vœux auront leur réponse demain soir à 19h. Et dans un instant, c'est Jean-Mathieu Pernin qui est avec nous. On va parler intox.
RTL. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. RTL. Nice cool breeze with big palm trees. I'll tell you, check him off in a minute. Toujours ravi. Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
8h18, on regarde ce qui se passe du côté des intox, des fausses informations avec vous, Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, non, la vaccination ne sera pas obligatoire dans un quartier de Bordeaux suite à la découverte d'un variant la semaine dernière.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, à 14h, ouvre un centre de vaccination au 139 rue Joseph Brunet, dans le quartier du Bacalan à Bordeaux. Alors voilà, non, cette chronique n'est pas devenue l'annuaire officiel des centres de vaccination français. Il s'agit juste de souligner la particularité de celui-ci, puisqu'il sera éphémère et s'appuie sur la technique de vaccination en nano. Après la découverte d'un variant très rare dans ce quartier de Bordeaux, il s'agit de frapper vite et fort en apportant des doses massives concentrées justement dans ce coin de ville. Une mesure qui n'a pas réjoui les anti-vax, hein, prétendant sur les réseaux sociaux qu'on ne laisse pas le choix aux habitants de Bacalan de se faire vacciner. Et notamment, l'ex-bras droit de Marine Le Pen, hein, Florian Philippot, qui le 21 mai dernier écrit ce tweet « On vaccine en urgence un quartier sans savoir les caractéristiques de ce variant. Si le vaccin marche contre lui, si les gens du quartier accessoirement sont d'accord. Nos dirigeants sont tous pervers ou tous stupides. » Voilà. Alors Philippot, qui profite de la moindre brèche pour se signaler et exister, se trompe. Il n'est pas besoin de demander si les gens du quartier sont d'accord puisqu'ils ne sont pas obligés de se faire vacciner. L'injection est un choix à Bordeaux, comme dans la France entière, et ce, depuis le début de la campagne.
Alors, c'est une intox qui est alimentée par les dernières déclarations de l'Académie de médecine.
Voilà, en fait. Hier, l'Académie de médecine préconisait une vaccination obligatoire, et notamment pour certaines professions, les forces de l'ordre, les enseignants ou les employés de la grande distribution, ainsi que pour les enfants et les adolescents, par crainte de ne pas atteindre une immunité collective. Il y aurait 15% de réfractaires en France et ça pourrait compromettre l'objectif. Il est bon de préciser que c'est un avis et non une obligation. Le 24 novembre dernier, lors d'une allocution, le président de la République a déclaré qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Et pour l'instant, en France, comme dans le reste du monde, cette tendance tient la corde.
Alors, la vaccination obligatoire qui concerne en revanche déjà certains Français.
Bah oui, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B sont obligatoires pour les étudiants des professions médicales, pour les professionnels exposés des établissements de prévention, les personnels des services de secours et d'incendie. Les thalatopracteurs, eux, ont pour obligation de se faire vacciner contre l'hépatite B uniquement. 11 vaccins sont déjà obligatoires pour les enfants nés après janvier 2018. L'obligation de vaccination, c'est un sujet à la frontière du politique et du sanitaire. Difficile de garder l'équilibre.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Demain matin, dans un instant, nous allons parler des éventuels troubles de l'érection en liaison avec le Covid. Merci, merci cher Michel. Je me sens interpellé.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Je ne sais pas ce qui vous a pris ce matin, vous vous intéressez aux conséquences du Covid sur les hommes et plus particulièrement sur leur intimité.
C'est le hasard.
Oui.
C'est le hasard. Alors il est question effectivement des troubles de l'érection qui seraient plus fréquents. Alors je dis bien plus fréquents et non pas systématiques parmi les hommes ayant eu le Covid. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs études médicales dont l'une, forcément italienne, conclut que le risque de troubles quintuple quand on a eu la maladie. Alors évidemment, avant d'en arriver à cette conclusion, on a pris soin de comparer des profils comparables, c'est-à-dire des hommes ayant le même niveau d'embonpoint ou de santé psychique.
Connaît-on la raison de ces troubles et surtout leur durée, cher Michel ?
Alors sur la durée, difficile de se prononcer. Le Covid est arrivé dans notre vie il y a un peu plus d'un an. La communauté scientifique s'est concentrée sur le plus urgent, en l'occurrence le vaccin. Et aujourd'hui, elle a besoin d'un peu de temps pour débroussailler d'autres questions liées aux conséquences de la maladie.
Donc, débroussaillons alors.
Voilà, donc sur la durée, on manque de recul. Même chose pour ce qui concerne les cause de ces troubles, même si les chercheurs proposent déjà quelques pistes. On s'est par exemple aperçu que le Covid pouvait générer des troubles cardiovasculaires, ce qui suggère que le coronavirus soit capable d'affecter la paroi des vaisseaux sanguins. Or, une bonne érection a besoin de bons vaisseaux sanguins. S'ils sont endommagés, ça peut influer sur l'afflux de sang dans la verge.
Quelles sont les autres hypothèses avancées par nos amis chercheurs ?
Alors, le taux de testostérone. Ce taux aurait tendance à diminuer chez les convalescents du Covid. Dès lors que la testostérone, hormone mâle par excellence, est impliquée dans les fonctions sexuelles, on peut imaginer que, venant à manquer, elle, influe sur l'érection.
Alors, on sait que le Covid peut mettre n'importe qui à plat. Ces troubles de l'érection ne sont-ils pas tout simplement à mettre sur le compte, en fait, de la fatigue, une bonne grosse fatigue?
Bah voilà, c'est aussi une explication avancée par les chercheurs. D'ailleurs, non seulement le Covid fatigue, et parfois pendant plusieurs mois, mais il est évident qu'il génère du stress, voire un stress post-traumatique. Quand on a eu peur pour sa vie, ça laisse forcément des traces, et le stress, comme la fatigue, est le pire ennemi d'une bonne libido. Alors, pas de panique, hein. D'abord, il existe contre les troubles de l'érection des pilules magiques, mais quand même, sachez que les chercheurs sont en train de vérifier que ces traitements classiques sont efficaces contre les troubles de l'érection liés au fait d'avoir eu le Covid. Et puis, tenez, tant qu'on y est, je vais charger la barque avec une autre nouvelle, pas forcément réjouissante.
C'est pas qu'on s'en félicite, mais enfin, dites toujours.
Oui. Il se pourrait bien, messieurs, que la qualité de votre sperme soit altérée après avoir eu le Covid. Ah. Ça nous vient d'une étude allemande, dont je tempère quand même les conclusions pour trois raisons. D'abord, l'analyse n'a porté que sur 84 patients. Ces patients avaient, dans leur majorité, contracté une forme grave de la maladie. Et puis, on le sait, la fièvre a toujours un impact négatif sur la qualité et sur la production de sperme, quelle que soit la maladie dont on souffre.
Je vous remercie donc de toutes ces informations.
Je vous en prie.
On se retrouve demain matin avec grand plaisir.
En essayant d'être un peu plus optimiste pour vous rassurer.
Merci infiniment, bon, Michel. À demain. À moins de deux mois du coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Tokyo, les Japonais sont de plus en plus critiques quant au maintien et l'accueil de sportifs du monde entier dans leur pays. Nous serons avec la spécialiste de l'Asie, Valérie Niquet, dans un instant. Elle se trouve au Japon actuellement. Elle va nous dire s'il est encore possible d'annuler ou de reporter ces Jeux Olympiques qui suscitent visiblement beaucoup d'inquiétudes chez les Japonais. A tout de suite sur RTL. Très bonne journée à tous.
RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et à moins de deux mois de la date officielle du début des Jeux Olympiques de Tokyo, de plus en plus de voix se font entendre et répètent qu'il est déraisonnable de maintenir cette compétition en pleine pandémie. Bonjour Valérie Niquet.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheuse en géopolitique française, spécialiste de l'Asie. Votre dernier livre, Le Japon en 100 questions, un modèle en déclin, c'est une question, est disponible aux éditions Talendier. Valérie Niquet, vous vous trouvez précisément au Japon actuellement. Vous nous confirmez que de plus en plus, les Japonais s'opposent en fait à la tenue des Jeux Olympiques?
Ça fait déjà pas mal de temps et même en fait ça précède la période actuelle. Comme dans beaucoup de pays développés et démocratiques, l'opinion publique ne soutient pas toujours très massivement l'organisation de ces grands événements. On a vu qu'en France on avait à peu près le même genre de réaction. Mais aujourd'hui effectivement l'opposition augmente et on est entre, selon les sondages, 60 à 80% des gens qui sont hostiles au maintien des Jeux Olympiques, certains souhaitant un nouveau report qui semble-t-il est impossible. Les Jeux ont déjà été reportés l'année dernière de un an. Et selon le Comité international olympique, ce serait difficile de le faire à nouveau. Donc oui, effectivement, l'atmosphère au Japon pour le moment n'est pas très positive en faveur et très enthousiaste surtout parce que c'était ça le but des Jeux aussi. C'était d'être heureux autour de ces Jeux olympiques après la catastrophe de Fukushima, une sorte de renaissance de modèle japonais qui se présente au monde. Et puis aujourd'hui, ça n'est pas exactement ça qu'on voit.
Jusqu'à 80% de rejet, c'est terrible. De plus en plus de journaux du pays et même des scientifiques ont pris la parole pour s'opposer à cette tenue.
Oui, alors des analystes, et y compris des gens qui sont favorables au gouvernement, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, on est bientôt en campagne électorale, donc il y a évidemment aussi un jeu politique autour de l'organisation de ces Jeux olympiques. En fait, les critiques sont de plusieurs ordres. Certains, et à mon avis, ça n'est pas la meilleure, considèrent que cette invasion, entre guillemets, de joueurs plus leur entourage étranger risque de relancer l'épidémie ou d'accroître ou d'aggraver les risques de contamination au Japon. En réalité, beaucoup de ces gens seront vaccinés. Les mesures de contrainte sont très fortes, donc le risque est très limité. L'autre élément, c'est que pour essayer de faire prendre conscience au Japon, parce que le Japon, comme dans le reste de l'Asie, il y a très peu de cas. Il y a beaucoup moins de cas que chez nous. Il y en a un peu plus qu'avant, mais il y en a quand même beaucoup moins que chez nous. Et les gens, finalement, avaient assez peu conscience des gestes barrières, contrairement à ce qu'on dit souvent en France. Bon, on porte un masque, ça c'est absolument évident partout. En revanche, les bars sont ouverts, officiellement fermés, mais on peut souvent y aller, les sorties continuent, il n'y a pas de confinement tel qu'on l'a connu chez nous. Et peu de cas. Et donc, les pays d'Asie ont souvent été assez complaisants en pensant que finalement, eux avaient vraiment échappé à l'épidémie. Et là, avec la remontée, le pouvoir veut faire prendre conscience aux gens que c'est un risque, et c'est un risque réel. Et donc, on a plutôt appuyé sur des images menaçantes, inquiétantes. Et donc, évidemment, l'opinion publique réagit en ayant peur. Et peur des Jeux Olympiques.
Ce que vous nous décrivez est extraordinaire, parce qu'en fait, tout est paradoxal, en fait. La situation de la pandémie est quand même système globalement maîtrisé dans ce pays. Le pays n'a jamais été violemment touché jusqu'ici. Et en fait, ils ont peur et l'angoisse monte et elle est devenue généralisée.
Oui, et puis il y a un autre élément, c'est que comme encore une fois ailleurs en Asie, c'est vrai en Corée du Sud, c'est vrai à Taïwan, c'est même vrai en Chine d'ailleurs, et bien finalement le rythme de la vaccination par rapport à nous, y compris par rapport à la France qui n'était pas particulièrement en pointe en la matière, a été très lent. Oui. Et ça commence tout juste à Tokyo. On vient d'ouvrir deux grands vaccinodromes, mais qui en sont à peu près 15 000 vaccinations par jour, et pour le moment on n'a que moins de 5% de la population japonaise, 120 millions d'habitants, qui soient vaccinés. Alors d'abord les personnels soignants, mais ils ne le sont pas tous, et puis les personnes âgées, et ça commence tout doucement. Donc en fait, le Japon, c'est vrai, arrive aux Jeux Olympiques sans avoir été véritablement complètement vacciné, oui. Ce qui aurait pu être un moyen de rassurer la population. Oui. Ça va sans doute, le rythme va s'accélérer, bien entendu, mais certains considèrent que consacrer ses efforts aux JO en ce moment, alors qu'il y a d'autres urgences, dont l'organisation très compliquée de la vaccination, eh bien, c'est peut-être une perte d'énergie.
Ce qui veut dire qu'il va falloir un sacré coup de collier d'ici le 23 juillet, l'ouverture officielle des JO.
Oui, enfin là, personne ne s'attend à ce que le pays soit vacciné avant l'ouverture des JO. La solution qui a été adoptée, c'est finalement de bloquer tout contact. Et c'est là, à mon avis, qu'on trouve la chose la plus dommageable. Parce oui. qu'au lieu d'avoir l'image d'un pays ouvert, ce qu'est le Japon, hein, il faut le reconnaître tout de même, avec énormément d'atouts, y compris en termes d'attractivité touristique et autres, eh bien, avec cette épidémie de coronavirus, cette peur de la contamination qui viendrait de l'extérieur, eh bien, les JO vont se dérouler en vase clos. Certains économistes voient que ça va pas rapporter grand-chose. Finalement, il y aura peut-être même pas de public japonais, même si ça n'est pas encore décidé, pas de public étranger. Et puis, les joueurs eux-mêmes seront confinés au village olympique. Donc, toute cette idée, encore une fois, très importante, qui était de projeter une image positive, qui est réelle, de l'archipel, eh bien, elle risque d'être remise en cause, même si les Jeux se passent, entre guillemets, bien, c'est-à-dire sans catastrophe sanitaire, ce qui devrait être le cas.
Une toute dernière question, est-il encore imaginable que ces Jeux olympiques soient annulés ou qu'ils n'aient pas lieu ?
Pour le Comité international olympique, non, ça avance. Les Japonais suivent. De toute manière, ce n'est pas eux véritablement qui peuvent décider. La clé, ce sera les délégations étrangères. Si celle-ci, si une des délégations importantes décidait de finalement ne pas y aller, évidemment, ça pourrait remettre en cause l'organisation des JO. Mais pour le moment, ça n'est pas du tout la ligne qui est suivie ni par le Comité international olympique, ni par les grands partenaires de Tokyo, ni évidemment par les autorités japonaises.
Vous m'avez l'air très en forme, vous qui êtes sur place quand vous vous baladez dans la rue, vous êtes inquiète ?
Pas vraiment, il y a très peu de cas, je mets un masque, je sors peu, je dirais, je passe pas ma vie dans les bars japonais le soir, donc j'ai l'impression de pouvoir échapper au risque de contamination à Tokyo.
Merci infiniment Valérie Niquet d'avoir pris la parole sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheuse en géopolitique, spécialiste de l'Asie, et que votre dernier livre, Le Japon en 100 questions, un modèle en déclin, est paru aux éditions Talendier. Excellente journée à vous et à très bientôt sur RTL.
Merci.
Dans un instant, Louis Baudin, ça mettait où à 7 jours hein.
Ah.
Attention, hein, on vous attend au tournant.
Oui, mais je suis là.
Ok.
Dans 30 minutes, laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. Encore une semaine riche dans nos salles de cinéma. Je vais essayer de vous aider à faire votre choix parmi les 15 nouveautés du jour. The Phaser de Florian Zeller, le film d'animation Les Bouches-Trous ou encore le thriller horrifique Méandre. Vous le verrez, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Allez, ce matin, on se fait une toile et la séance débute à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Il est des moments que l'on souhaite partager.
C'est vrai.
Notamment à 8h36 sur RTL, notre météo à 7 jours. J'ai bien dit à 7 jours, nous vous écoutons religieusement, cher Louis Baudin.
Et surtout aujourd'hui, après ce mois de mai qui n'en finit pas, sous la pluie, les averses, les températures quasiment dignes d'une fin mars.
Presque un temps de Covid.
Ça y est. Covid, et bien ça y est, ça change à partir de demain.
Ah.
Incroyable, l'anticyclone revient, des conditions qui changent totalement par rapport à ce temps instable que l'on a connu. Alors demain, ça sera la journée intermédiaire, quelques nuages encore dans le nord-est, voire peut-être quelques gouttes de pluie du côté de la Lorraine ou encore sur l'Alsace, mais ailleurs, retour d'un temps sec. Première étape avec du grand soleil dans la moitié sud. Les températures sont encore un peu justes, entre 17 et 19 degrés dans la moitié nord. C'est encore pas de saison, mais ça remonte. Et on sera entre 20 et 25 dans le sud. Et puis après, c'est parti. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, allez, même jusqu'à mercredi prochain,
oui, allez-y.
Nous aurons du temps sec, ensoleillé, parfois un petit voile nuageux, mais sans conséquence, et des températures qui vont grimper. Vendredi, nous franchirons les 20 degrés dans la moitié nord.
C'est quasiment
la première fois depuis le début du mois de mai.
Oui.
On franchira les 25 degrés dans le sud, et puis ça continue comme ça. Donc des températures très agréables, un petit peu fraîches le matin, mais c'est normal. Et l'après-midi, entre 20 et 25 degrés dans la moitié nord, et autour de 25, 26 degrés dans la moitié sud.
Ah bah dites-moi, j'allais vous dire, on a attendu. Donc je note bien cela. En tout cas, dans la partie nord, on dépasse les 20 degrés pour la première fois du mois de mai à partir de vendredi.
Ouais, exactement.
Je crois qu'il y a une formule toute faite, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Acceptons-en l'augure.
Ouais,
et l'augure
ça.
S'appelle
c'est
Louis
dommage,
Botta.
Je vous confirme.
Merci Louis.
RTL, vous êtes comme ça.
C'est une histoire et pour tout dire, un incroyable destin que nous allons vous expliquer ce matin. Celui de Massoma Alizada, cette cycliste afghane âgée de 24 ans rêve de participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. La pratique de son sport étant interdite dans son pays, elle a trouvé refuge dans le nord de la France grâce à l'abnégation de véritables passionnés du vélo. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré cette championne pour RTL, vous l'avez suivie en périphérie de Lille à l'entraînement au sein d'un club de cyclistes local.
Oui, sur son vélo en carbone, Massoma traverse les villages, passe devant les maisons briques rouges, les estaminets et les champs de blé. Elle admire ce paysage bien loin des montagnes afghanes.
Quand je vois les gens, les bâtiments, les constructions, je sens l'odeur de champ. Ça, c'est vraiment être libre.
Un léger foulard noir dépasse de son casque. En Afghanistan, Massoma a risqué sa vie pour son sport. Faire du vélo est considéré comme un péché et un déshonneur.
Quand j'étais à Kaboul, j'ai essayé de couvrir mes visages, que les gens ne savent pas que je suis une fille, que la place des filles, c'est à la maison, dans la cuisine. On est un mauvais exemple pour les autres filles. Peut-être on est sacrifice. Mais pour les autres, ça va être plus facile.
Sur les pavés, le peloton file à 35 km/h, accélère au bout d'une dizaine de kilomètres. La jeune cycliste s'accroche, grimace, la douleur se lit sur son visage, plusieurs coureurs s'échappent.
On sent que c'est difficile pour elle, mais elle s'accroche. Personne ne la pousse. En fait, elle est déjà en train de se pousser elle-même. Et je pense que c'est ça le plus important dans le cyclisme. Plus qu'admiratif, je la trouve très courageuse plutôt, voilà, comme ça.
À la fin de l'entraînement, Massoma s'arrête, exténuée. Elle a tout donné.
Au début, on a commencé un petit peu dur, mais c'est ce qui est vraiment important parce que la course, ça commence vite. Du coup, on doit progresser là-dessus. Tout est pour préparation pour les Jeux Olympiques. Même, je ne sélectionne pas, mais je le fais.
La jeune athlète s'entraîne dur pour pouvoir intégrer l'équipe olympique des réfugiés pour les prochains JO de Tokyo. Jérôme Lambert est son entraîneur.
On n'a pas besoin qu'elle sprinte. Elle n'a pas besoin qu'elle soit puncheuse ni grimpeuse. On n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin qu'elle puisse pouvoir être intégrée au sein du peloton et qu'elle puisse tenir les meilleurs le plus longtemps possible. Moi, j'ai un énorme respect vis-à-vis d'elle sur le parcours. Elle quitte un pays pour arriver dans un pays complètement étranger avec tous des codes différents, une culture différente. Rien que la barrière de la langue, c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui pourraient prendre son exemple.
Alors, à côté du cyclisme, Massoma étudie le génie civil sur le campus de l'Université de Lille pour devenir ingénieur.
Oui, dans sa petite chambre, la jeune femme révise à son bureau. Sur une étagère trônent des médailles de cyclisme remportées en Afghanistan. Sous son lit, elle sort un album photo.
Ça, c'est avec mes coéquipières, avec mon coach. C'était une district de Kaboul qui s'appelle Karka. Elle a une rivière avec les montagnes. C'était un endroit préféré pour nous.
À Kaboul, Massoma est parfois obligée de s'entraîner la nuit pour éviter les insultes, les jets de pierres et les agressions physiques.
On vivait dans un pays où on voyait beaucoup de discrimination contre les femmes, violence. Mon coach, il nous disait toujours ça, que vous n'êtes pas n'importe qui, qu'ils ont la capacité ou le pouvoir pour que les femmes peuvent utiliser le vélo comme un transport ou plaisir.
La notoriété croissante de la jeune cycliste ne fait que renforcer la pression. Celle que les médias surnomment la petite reine de Kaboul réfléchit à abandonner le vélo. Son père lui demande de continuer.
Mon père elle a dit que s'il s'arrête, les autres filles te voient, ça décourage les autres filles. Elle adore les femmes qui vraiment essayent de changer sa vie. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit que tu ne dois pas arrêter.
Menacée de mort, Massoma est finalement contrainte de quitter l'Afghanistan. Patrick Communal découvre son histoire lors d'un reportage à la télévision. Ce professeur d'université et passionné de cyclisme l'aide alors à rejoindre la France avec sa famille.
On ne s'est même pas posé la question. Ça nous semblait naturel de faire tout ce qu'on pouvait. Quand on regarde son parcours, elle a un destin
à part, quoi. Elle voulait venir en France, elle a eu un refus de visa, et pour elle, si son destin c'était de venir, ben elle viendrait. Elle a voulu venir à l'université, elle est venue à l'université. On voulait une bourse olympique, elle a eu la bourse olympique. C'est laisser toute sa vie, tout ce qu'on possède, et reconstruire une vie. Et on a quelqu'un qui a besoin, qui passe à côté, on lui tend la main.
Assise à ses côtés, l'étudiante sourit, réajuste son voile brodé de fleurs. À 24 ans, elle souhaite devenir la première championne de cyclisme musulmane.
C'est pas seulement pour les femmes de mon pays, c'est pour tous les pays qu'elle aimerait bien de faire un sport comme le vélo. Les femmes, si elles veulent faire quelque chose, elles peuvent le faire.
Après ses révisions, Massema remontera sur son vélo. Elle rêve de rapporter un jour une médaille olympique pour l'Afghanistan et changer l'image des femmes de son pays.
Merci beaucoup Nicolas Burnand pour cette formidable rencontre avec Massema Alizada, cycliste afghane. Elle a 24 ans et elle rêve de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle prépare tout cela à Lille et dans sa région.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h43 et ce matin, Isabelle Choquet, vous tutoyez la mort.
Oui Yves, et je préfère vous prévenir, âme sensible, s'abstenir. Nous allons parler de la mort et pas en version bac philo, ni en mode romantico-gothique, non. La mort dans ce qu'elle a de plus trivial, de plus terre-à-terre, parce qu'en lisant Marianne cette semaine, j'ai découvert deux choses. Un métier que je ne connaissais pas et les arnaques qui vont avec, le métier de nettoyeur post-mortem. Illustration dans une zone résidentielle de Limay, dans les Yvelines. Dans un petit pavillon, un homme est mort d'une hémorragie digestive. Ce n'est que deux jours plus tard que son beau-frère l'a découvert. Bien sûr, le corps a été emporté, mais ce qui reste est assez indescriptible. Des flaques, des débris, et puis des odeurs qui torturent les muqueuses, écrit Marianne. Trois hommes débarquent alors dans un pick-up noir. Ils enfilent des gants en latex, une combinaison blanche, un masque. Ce sont les nettoyeurs de la société Sans Froid, fondée par Baptiste Girardet. Lui, c'est un ancien de la police scientifique, ex-pompier aussi. Ces scènes cauchemardesques, c'est son quotidien. Ni les pompiers, ni les services funéraires ne nettoient les traces de la mort, le sang, les graisses, les bestioles. Il faut bien que ça se fasse. Les gens pensent qu'on peut nettoyer ça avec du monsieur propre, mais il y a des éléments pathogènes, dit l'un des employés. Alors lui, pour déloger les germes coincés dans le plancher, il utilise des produits biocides, mais aussi des microfibres jetables, des microbrosses, des filtres à air pour chasser les relents pestilentiels. Rien ne doit rappeler ce qui s'est passé. La moindre épingle de sang séché doit partir, question de principe. Drôle de métier, hein, seuls quelques spécialistes le font bien, mais pas pour rien. Sans Froid facture ses opérations entre 800 et 2000 euros. Mais sans nous, les familles se retrouvent à nettoyer elles-mêmes le sang de leurs proches, dit Girardet. Personne ne devrait avoir à faire ça. Julia, qui est gendarme, a souvent vu les proches blêmir en découvrant la scène de mort. Ils sont sidérés, très vite ils cherchent de l'aide. Ils tombent sur des sites web très alléchants, dit-elle, qui jouent sur la corde empathique, qui disent « on s'occupe de tout ». En fait, ce sont des entreprises malveillantes qui ont très bien vu la brèche. Le patron d'un hôtel de l'Essonne en a fait les frais. L'un de ses clients est mort dans son lit. Pendant 11 jours, la chambre est restée sous scellé. Après, elle était inutilisable, je vous épargne les détails. Premier devis, plusieurs milliers d'euros. Et puis, le directeur trouve une entreprise qui lui demande 400 euros seulement. Alors, il fonce, évidemment. À tort. La personne est venue seule, dit-il, sans matériel, avec une pompe à air de supermarché. Elle est restée un quart d'heure. Les taches de sang, elles, ne sont pas parties. Marianne a contacté 8 entreprises trouvées sur Google pour une intervention fictive. L'une a proposé un devis à plus de 2400 euros sans même se déplacer. Mmh. Une autre a reconnu qu'elle n'évacue pas les déchets infectieux selon le protocole sanitaire en vigueur. Ce post-mortem low-cost exaspère les vrais pros. En fait, le problème, c'est qu'il y a un vide. Les frais de décontamination ne sont jamais pris en charge ni par les assurances ni par la justice. Et puis notre métier n'existe pas, il n'y a pas de certification, dit le patron de Sang-Froid. Les escrocs en profitent. Lui, il est allé chercher une certification au Canada. Il en existe aussi aux États-Unis ou en Angleterre, mais toujours rien en France. Mourir peut attendre, hein, on dirait un James Bond. Nettoyage post-mortem, le business et le Far West à lire cette semaine dans Marianne.
Merci beaucoup Isabelle. Dans un instant, on retrouve Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Quel bonheur de vous retrouver, Monsieur Calvi.
Oh oui, quel bonheur. Fumier, c'est pas pour vous.
Bah non. Bonjour Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous amène?
J'en peux plus. J'en peux plus de tous ces cons qui postent sur les réseaux sociaux la photo de leur vaccination.
Ah oui.
Facebook, Instagram, Twitter, c'est devenu un vrai vaccinodrome. Et ils sont là, tout fiers, avec leur gueule d'abruti. Hein, comme s'ils avaient décroché la lune. Hein, faut leur dire que c'est pas eux qui ont inventé le vaccin. Fumier, va.
Mais il faut les comprendre, ils sont soulagés d'être vaccinés.
Ah oui, ah bah c'est bien ça, ils ont besoin de partager ça avec tout le monde. Moi, parfois, j'ai très envie d'aller au petit coin. Alors, ça me soulage. C'est pas pour ça que j'envoie ma photo sur les gogues à la terre entière. Nom de Dieu !
Heureusement. Calmez-vous, Gérard.
En général, c'est les mêmes qui, les jours d'élection, prennent une photo dans l'isoloir et la postent avec en commentaire « À voter !» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que t'aies voté, hein ? Bruti, va ! Et puis, si on met un isoloir avec un rideau, c'est pas pour rien. Crétin, va. Attends, j'ai une notification.
Vous êtes moderne.
Qu'est-ce qu'on me veut encore ? Oh les cons ! Là maintenant, qu'ils postent tous des photos de leur tasse à café pour fêter la réouverture des terrasses. Hein ? Ah ben c'est vrai que c'est original, une tasse à café. Hein, ça mérite d'être partagé à Bruxelles.
Oui, mais rassurez-vous, ça va vite leur passer.
Ah oui, oui. Mais à ce moment-là, ça sera l'été. On aura droit aux photos de leurs putains de pieds en éventail sur la plage. Fumier, va !
L'annonce de la fusion des groupes TF1 et M6 bouleverse le paysage audiovisuel français et même mondial. C'est un nouveau mastodonte qui est né et dont la direction est confiée à l'actuel PDG du groupe M6, Nicolas de Taverneau. Voyons quelles sont les conséquences économiques avec notre spécialiste François Langlais.
Bonjour, alors quel est le but de la manœuvre ? Lutter contre les plateformes américaines, par exemple. TF1 seul ne pouvait pas concurrencer Netflix.
Oui.
Laurent Chouchan ne pouvait pas rivaliser avec Martin Scorsese.
Pardon, mais qui est Laurent Chouchan ? Oui.
Le créateur de Joséphine Ange Gardien. Mais quand Laurent Chouchan sera associé à Jean-Michel Grelot, je peux vous dire que Martin Scorsese et Netflix auront du souci à se faire.
Pardon, mais qui est Jean-Michel Grelot ?
Le réalisateur de scènes de ménage sur M6.
Ah oui ?
Je peux vous dire qu'Angelina Jolie et Brad Pitt ne feront pas les malins face à Mimi Mathy et Gérard Mendez.
Ah bah oui, les Américains doivent trembler.
Mais c'est surtout économiquement que cette fusion TF1-M6 sera profitable.
Ah bah, expliquez-nous ça.
L'émission Recherche appartement ou maison sur M6 deviendra Recherche immeuble et tour de bureau. Après avoir vendu des deux pièces cuisine, Stéphane Plaza vendra des constructions Bouygues. Ce qu'on appelle la mutualisation.
D'accord, d'autres exemples ?
Ben, il y en a qui vont prendre du galon. Karine Le Marchand. Karine la Marchande. Karine Le Marchand, qui porte bien son nom, animera un télé-shopping amélioré. Fini la cuisine décorative et les claquettes amincissantes. Désormais, on vendra des pelleteuses et des bétonnières. En prime time, son émission à Karine Le Marchand, L'amour est dans le pré, deviendra L'amour est dans le chantier. Des célibataires en mal d'amour pour avoir des relations sexuelles avec des maçons et des plâtriers peintres. C'est du gagnant-gagnant.
Bah, en effet. On annonce néanmoins des économies d'échelle.
Oui. Ben, c'est la mission confiée à Nicolas de Taverneau. Il utilisera une théorie économique qu'il affectionne et qui s'appelle la théorie de la pince.
La théorie de la pince.
Théorie de la pince. Il s'agit de rationaliser les coûts. Gilles Boulot va en avoir pour le coût du boulot avec la théorie de la pince. Désormais, il présentera le 12h45 d'M6, le 13h de TF1, le 18h45 d'M6 et le 20h de TF1. Tout se goupille très bien finalement. Et s'il lui reste encore du temps, il passera un coup de balai à la cantine commune aux deux chaînes. Pour le récompenser, l'aristocrate Nicolas de Taverneau l'anoblira. Gilles Boulot s'appellera maintenant Gilles de Boulot pour le même salaire.
Bon, d'autres économies sont à prévoir ?
Bien sûr. New York, unité spéciale, deviendra Gif sur Yvette, unité spéciale. Ce sera moins cher en déplacement.
Ah oui.
Pour faire des économies, Nicolas de Taverneau jouera lui-même le rôle d'Audrey Fleurot dans la série à succès HPI.
HPI qui signifie, je le rappelle, haut potentiel intellectuel.
Oui, mais là, la série changera de nom. Elle changera bien sûr de nom, elle s'appellera désormais HPF, haut potentiel financier. Comme vous le voyez, la théorie de la pince est très efficace. D'ailleurs, à chaque fois que je vais dans le bureau de Nicolas de Taverneau pour réclamer une augmentation de salaire, il me répond, vous serez augmenté quand vos cheveux auront repoussé. Autant vous dire que Louis Baudin et moi-même avons un grand avenir dans ce nouveau groupe audiovisuel.
Il est l'heure de retrouver Pascal Pro en direct de CNews. C'est à vous, Pascal. Ah oui.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure d'écrou, l'émission qui montre les dents aux bobos, renifle les chaussettes sales du politiquement correct et croque les mollets de la bien-pensance. Avec aujourd'hui un invité exceptionnel puisque nous recevons pour la 47e fois de la semaine, Philippe Devilliers. Bonjour Philippe.
Salut à toi, ami aubergiste, et merci de me recevoir dans ton tripot.
Je ne suis pas aubergiste, je suis journaliste. Alors Philippe, vous venez de sortir un nouveau livre intitulé « Parole, parole, tout ce que Macron ne vous a pas dit ». C'est votre cinquième livre de l'année, décidément vous écrivez beaucoup.
Eh oui, je suis productif, pas comme les assistés accrochés aux aides sociales. Comme les morpions aux testicules de la France.
Le temps est donné, nous recevons aussi Nadine Morano. Bonjour Madame Morano.
Salut ma poule, bon alors on boit quoi?
Je vous le répète, nous sommes dans une émission de débat, pas dans un bistrot. Taisez-vous Laurent Geoffrin, je vous l'ai déjà dit, on n'y comprend rien quand vous parlez avec votre baillon. Ah, c'est pénible la langue.
Oui, Geoffrin, plutôt que de baragouiner, rends-toi utile, serre-nous un pastis. Fifi l'a dit que ça soignait du Covid, n'oublie pas les cahuètes, ma poule.
S'il vous plaît, alors un peu de sérieux, parlons plutôt de l'état de la France.
Mm-hmm. La France est foutue. Et ce, depuis qu'elle a montré sa faiblesse en cédant au chant démoniaque des sirènes de Maastricht. S'il vous faudrait, c'est un nouveau Charles de Gaulle.
Vous êtes d'accord avec ça, Nadine ?
Non, je suis pas d'accord. Ce qu'il nous faudrait, c'est un nouveau Charles Martel, voilà.
Eh bien, merci à tous les deux pour la haute tenue du débat. L'émission touche à sa fin. On se retrouve à 13h sur RTL, dans Les Auditeurs ont la parole, pour répondre à la question « Faut-il modifier les expressions populaires pour les rendre accessibles aux transgenres ?» Si mon oncle en avait, l'appellerait-on ma tante ? Réagissez au 3210.
Ah là là. Tout cela est à retrouver avec toute l'équipe sur le site RTL.fr et sur l'appli RTL, bien entendu, à tout moment, quand vous le souhaitez. Nous allons retrouver M. Lignac dans un instant, et moi je suis ravi aujourd'hui, il va me donner une recette de tzatziki. Je ne rêvais que de cela. A tout de suite.
RTL Matin.
Réservez vos places pour le spectacle événement à crédit et en stéréo, la rencontre inédite du roi du swing et du roi de l'humour Eddie Mitchell et Laurent Gérard. À crédit et en stéréo, en live streaming, demain à 21h. En vente sur MyCanal et point de vente habituel avec RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Les gourmands sont tous là, soyons directs. Cher Cyril Lignac, ce matin c'est Nadia qui vient à Neuilly-sur-Marne. Elle voudrait connaître votre recette de tzatziki, ce qui m'intéresse évidemment infiniment. Moi aussi, nous vous écoutons religieusement.
Alors, on va préparer donc un bon tzatziki. Alors déjà, il faut choisir le yaourt.
Oui.
On a le choix entre un yaourt de chèvre, oui, ou un yaourt traditionnel. Ce qu'il faut, c'est déjà préparer le concombre, c'est-à-dire on l'épluche, on enlève les petits pépins, oui, on le râpe finement, on met une petite gousse d'ail haché, de l'huile d'olive, on mélange avec du yaourt grec,
oui,
et ce qui est très très bon, c'est qu'on met un petit peu de vinaigre de vin pour avoir de l'acidulé. Alors ensuite, soit on y met des lamelles de concombre dessus en plus, soit on le laisse tel quel, avec un petit peu de piment d'Espelette, de l'huile d'olive. Et à côté, moi j'aime bien faire des petites salades, des petits mezzés. On peut aussi toaster un petit peu de pain avec de l'huile d'olive et le manger juste dessus, bien crémeux et onctueux.
C'est tellement simple, agréable et à retrouver sur le site RTL.fr. Je vous remercie mille fois. À demain, cher Cyril.
À demain.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le point sur l'actualité avec Jérôme Florent.
Le nombre de fumeurs ne baisse plus pour la première fois depuis 6 ans. D'après les chiffres de Santé publique France publiés ce matin, le tabagisme augmente même chez les plus modestes. Le stress lié au confinement pourrait en partie expliquer ce phénomène. Le nouveau patron du musée du Louvre sera une femme. Laurence Descartes, aujourd'hui à la tête du musée d'Orsay, sera la première femme à diriger le plus grand musée du monde. Une enquête ouverte après l'agression du maire de Houges en Côte d'Or dimanche. Il avait demandé à un conducteur de quad de ralentir. Plusieurs personnes se sont ensuite ruées sur lui. Armé de barres de fer, il s'est vu reconnaître une interruption totale de travail de 2 jours. AstraZeneca et l'Union Européenne face à face devant la justice. Premier round d'aujourd'hui. Bruxelles demande des comptes après les retards de livraison. Les bureaux de vote ont ouvert en Syrie. Sans surprise et après des années de guerre, Bachar el-Assad devrait décrocher un 4e mandat de président. Il est au pouvoir depuis 21 ans. Et puis Christophe Galtier annonce son départ du LOSC. L'entraîneur lillois aux manettes du club depuis décembre 2017 explique qu'il ne veut pas tomber dans la routine. Après avoir conduit les Dogs en tête du championnat, Nice et l'OL entre autres lui font déjà les yeux doux.
Merci.